16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bienvenue à tous dans Historiquement Vôtre, 2 heures de découverte et de bonne humeur pour regagner votre domicile avec le sourire ou bien oublier que du fait des restrictions vous n'avez pas pu quitter ce domicile. Dans tous les cas, les plus fines épées de l'histoire sont là pour vous servir, à commencer par celui qui possède toutes les clés de tous les châteaux de France vu qu'il se fait faire un double à chaque secret d'histoire et Dieu sait qu'il y en a en ce moment. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu Noël. Alors c'est totalement faux, je ne fais pas des doubles des clés de tous les châteaux que je visite dans le secret d'histoire. Seulement de ceux qui me plaisent et dans lesquels j'aimerais vivre. Ravi en tout cas de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre. Chaque après-midi, vous le savez, trois personnages réunis par un point commun. Aujourd'hui, pas de bol.
Pourquoi ?
Parce qu'on réunit les poissards de l'histoire. D'abord, le Pierre Richard du télescope, comme le surnomme l'auteur d'un livre consacré à Guillaume le Gentil, un scientifique qui, dans le grand siècle du 18e, s'est donné une mission, apercevoir Vénus. Et vous allez voir qu'il est venu, qu'il n'a pas vu, mais qu'il ne s'est pas avoué vaincu. Et pourtant, il a collectionné les déconvenus.
Il voulait voir Vénus, pas le bras de Vénus, hein, fameuse pâtisserie dont vous avez parlé, Olivier Pouls,
oui, qui
contrairement à ce que vous pensiez.
Oui. Puis, je vous raconterai Honoré de Balzac, un grand écrivain, c'est vrai. Un grand poissard dans le domaine littéraire aussi. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un comédien 99% maladroit dont le nom sert donc lui-même à illustrer un certain penchant pour la maladresse, j'ai nommé Pierre Richard, n'est-ce pas ?
Oui, alors bien sûr, dans la vie, Pierre Richard n'est pas aussi maladroit que beaucoup de ses personnages cultes, mais vous allez voir qu'il y a quand même un truc, cette maladresse n'est pas entièrement un rôle de composition. Avec nous, comme chaque après-midi, la fine équipe, Stéphane, à leur mine encore un peu grisâtre, on sent qu'ils ont eu du mal à se remettre de la soirée Mojito que vous avez organisée samedi soir. Certains d'entre eux
sur
les clandestines. Hein, évidemment. Certains d'entre eux n'ont, paraît-il, même pas eu la force de changer de slip.
L'alcool nous fait faire des choses un peu terribles.
Surtout David Castello-Lopez. Bonjour David.
Bonjour, comment ça va ?
Chemise repassée aujourd'hui, David.
Oui, chemise repassée. Elle est un peu wrinkle-free, celle-ci, c'est-à-dire qu'elle a pas besoin
d'être... Wrinkle-free, vous nous traduisez ?
Oui, c'est de l'anglais, ça veut dire qu'il ne se froisse pas.
Vous connaissez l'existence des chemises wrinkle-free ?
Wrinkle, ce sont des rides, en fait, ou des plis. Oui, moi, je mets des crèmes pour éviter wrinkle free. Lui, il les a. Il est jeune, il les a sur ses chemises. Moi, je les ai autour des yeux.
Chaque jour, David, l'histoire d'une invention qui change notre vie. Et aujourd'hui, celle-ci, elle change notre vie, mais elle sauve nos vies.
Elle permet
aussi
de la conserver, puisque c'est le gilet pare-balles.
Gilet pare-balles.
On va voir d'où ça vient.
Mais ça date, je vais vous dire, du Moyen-Âge. La cotte de maille, c'est déjà une sorte de gilet pare-balles.
Oui, c'était un pare plutôt épais. Mais c'était le même principe. Ouais.
Et puis elle, vous savez, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, bonjour messieurs.
Bonjour.
Et puisque vous, aujourd'hui, vous parlez du distrait, Pierre Richard, moi je vais vous parler de l'image du traître, hein, puisqu'on est dans la période des fêtes de Pâques, et l'image du traître, qu'on soit croyant ou pas, tout le monde le connaît, c'est Judas. C'est même devenu un nom commun, le Judas. C'est
le Judas,
ce petit trou qui permet d'espionner par la fenêtre. Alors, vous savez que le malheureux Judas, bah, il est bien connu pour avoir livré le Christ aux Romains pour 30 deniers. Eh bien, moi, j'ai fait mon David Castello-Lopez. Aujourd'hui, je me suis dit, mais 30 deniers, au fait, ça ferait combien en euros ? Alors aujourd'hui, on parle monnaies antiques, deniers et talents, car l'argent, ça fait partie de notre intimité.
Il y a beaucoup de sujets en une seule chronique.
Ah oui,
on parle de Judas, on parle des deniers. Enfin, ça va être très très riche comme programme et très riche caloriquement aussi.
Ah aussi,
ça,
oui. Hein. Bah, le cordon bleu.
Lui-même
est un cordon bleu. C'est vrai. Bonjour Olivier Pouls.
Olivier Pouls.
Alors, c'est un plat qu'on a malheureusement un peu trop souvent trouvé à la cantine et puis pas terrible, mais un vrai bon cordon bleu, quand c'est bien fait, c'est quand même du pur bonheur. Alors je vous donnerai la recette, puis je vous dirai d'où il vient, puis pourquoi on l'appelle cordon bleu d'ailleurs, tiens.
Enfin, les amis, un numéro d'Historiquement Vôtre n'aurait pas la même saveur sans la séquence préférée de Carole Rousseau, Burn to be Alive. Ce quiz dantesque qui opposera à 5h-10. Stéphane, dès qu'on prononce le nom de Carole Rousseau, Stéphane, c'est
non,
tout.
Tout va bien.
Alors. Mais d'abord, découvrons notre premier malchanceux de l'histoire, un type qui avait vraiment la guigne et peut-être aussi un nom qui l'attire. Stéphane Bern nous raconte Guillaume le Gentil.
Europe 1, 16h-18h, Historiquement Vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Ils font l'amour le samedi, les gentils, ils font ça n'importe quand, les méchants. C'est Michel Fugain qui le dit.
Qui c'est qui vend des fusils ?
Les gentils.
Qui c'est qui se retrouve devant ?
Les gentils.
Ça, on est moins sûr, Michel. Notre personnage du jour est un gentil, lui. Guillaume le Gentil, c'est son nom. Gentil, mais clairement poissard. C'est l'histoire de ce scientifique du grand siècle que nous raconte maintenant Stéphane Bern.
Qu'est-ce qui pousse un aristocrate du XVIIIe siècle à quitter sa terre, à s'aventurer dans les mers lointaines au prix de 1000 dangers et à passer plus de 11 ans loin de son pays? La guerre, la fortune, la soif d'aventure, l'amour peut-être? Non, rien de tout ça. Ce qui a poussé Guillaume le Gentil à devenir aventurier, bien malgré lui, c'est une étoile, Vénus. Parti au bout du monde pour observer le passage de cette planète entre la Terre et le Soleil, c'est sur un océan de déconvenues qu'il voguera, ratant sans cesse ses rendez-vous avec un astre, objet ultime de son désir et cause de son errance. Pourtant, rien ne prédestinait Guillaume le Gentil de la Galésière à la vie de baroudeur qui fut la sienne. Né en 1722 dans une famille de la petite noblesse normande, après le collège, il intègre le séminaire, prélude à une vie d'ecclésiastique. Mais en 1745, lorsqu'il vient parfaire ses études religieuses à la faculté de théologie de la Sorbonne, un autre chemin se dessine. Curieux, Guillaume commence à suivre les cours d'astronomie au collège royal voisin. En ce siècle des Lumières, la raison et les sciences triomphent sur la foi et les superstitions. On cherche à expliquer le monde, mais les voies du Seigneur semblent finalement trop impénétrables à Guillaume, qui préfère, lui, désormais, étudier le ciel pour comprendre le cosmos. Guillaume le Gentil intègre l'Observatoire de Paris, puis, en 1753, la prestigieuse Académie des sciences. À cette époque, une question agite particulièrement le monde de l'astronomie, celle de la distance précise entre la Terre et le Soleil. Pour la déterminer par de savants calculs, on utilise le transit des planètes, c'est-à-dire leur passage entre notre Terre et le Soleil. Si Mercure peut être utile, le transit de Vénus permettra une estimation bien plus précise, et cela tombe bien. Son passage doit avoir lieu en 1761, puis en 1769, avant de ne revenir qu'en 1874. Toutes les sociétés savantes d'Europe sont en ébullition, Mathieu. On détermine des points d'observation partout à travers le globe. Guillaume le Gentil se propose, c'est décidé. Il ira observer le transit de Vénus depuis Pondichéry, comptoir français dans les Indes orientales. Le 26 mars 1760, Guillaume embarque alors à Lorient, 15 mois avant le passage de Vénus. C'est qu'il faut être prudent et mettre toutes les chances de son côté pour ne pas la rater. Alors qu'il n'a jamais vu autre chose que Paris ou sa Normandie natale, il se lance tout seul dans un voyage à travers les océans qui, à l'époque, n'a rien d'une sinécure. Dès la première nuit, une tempête de grêle fait découvrir les effets de la houle sur le corps d'un astronome. Pas besoin d'être un scientifique accompli, vous avez compris. Le Gentil mettra plusieurs semaines à ne plus subir le mal de mer. C'est lors d'une escale à l'île de France, actuelle île Maurice, qu'il comprend que son voyage est loin d'être terminé. La guerre, que l'on nommera plus tard de 7 ans, fait rage depuis 1756 entre les principales puissances européennes, tant sur le vieux continent que dans les colonies. Les possessions indiennes sont le théâtre du conflit entre la France et l'Angleterre. On somme le navire de retourner à l'Orient, mais le Gentil ne peut s'y résoudre. Il traîne quelques mois avant de pouvoir enfin embarquer sur un autre bateau, en direction de Pondichéry. Ralenti par les vents contraires de la mousson, il apprend que le comptoir est passé aux Anglais, qui n'autorisent pas le navire à accoster. C'est donc depuis le pont, en plein océan Indien, que le 6 juin 1761, Guillaume tente péniblement d'observer l'astre tant attendu. Il y installe son sextant et surtout son quart de cercle, imposant instrument fait d'un arc de bronze gradué, augmenté de lunettes de visée avec curseur qui permet de mesurer l'angle de hauteur des astres au-dessus de l'horizon. L'appareil nécessite une totale stabilité. Chancelant sur le pont du navire, Guillaume ne voit pas grand-chose. Tout ce voyage pour rien. Un mois plus tard, le Gentil est de retour sur l'île. Il attend sagement qu'un navire daigne le ramener vers l'Orient. Il décide de mettre ce temps à profit pour étudier ses mers et terres lointaines. Il effectue moult relevés sur Madagascar et l'île Bourbon. C'est la Réunion aujourd'hui. Il prend aussi le temps de découvrir les sociétés locales, autant que la rudesse des fièvres tropicales. Il ne cesse d'envoyer des rapports à l'Académie et sous-entend dans ses lettres qu'il pourrait rentrer bientôt. Mais à partir de 1765, son choix est fait. À quoi bon repartir pour des mois de navigation? Autant rester sur la zone pour profiter du prochain transit de Vénus en 1769. 4 ans, c'est pas si long finalement. Il décide de partir pour Manille, aux Philippines, alors terre espagnole, qui sera un point d'observation tout aussi appréciable que Pondichéry. Mais les relations se tendent avec les autorités locales qui le soupçonnent d'espionnage. Il quitte donc les Philippines en février 1768. Faux départ, le navire manque de chavirer. Finalement, un mois plus tard, le gentil atteint enfin Pondichéry. Il lui reste 14 mois avant le transit de Vénus, de quoi se préparer tranquillement. Il fait construire un observatoire et y dispose, cette fois comme il se doit, ses nombreux instruments, sextants, quart de cercle et lunettes à lentilles. Il prend le temps de s'enquérir des connaissances astronomiques locales sur la prévision des éclipses. Cette fois, il est fin prêt. Le jour fatidique arrive. Oh, tout s'annonce pour le mieux. La veille, le ciel était parfaitement clair, comme toujours en cette saison. Mais hélas pour lui, au matin, un inquiétant vent rabat d'épais nuages sur la côte. Guillaume le Gentil est soucieux, mais croit en sa bonne étoile. Cela ne peut pas durer. Et pourtant, il faut s'y résoudre. Le ciel est obstrué. Il ne verra rien de ce second passage. Encore raté. Vénus ne reviendra que dans 105 ans.
Oh la loose.
On imagine la déception de cet homme qui s'était donné comme sacerdoce de courir après une étoile qui ne cessa de se dérober. Ajoutez à cela quelques mois de fièvre et de dysenterie et l'évidence se fait jour, il faut rentrer. 10 ans de relevés et d'observations lui permettent au moins de revenir auprès de l'Académie en ayant fait avancer la science. Il pourra retrouver sa place, ses proches, sa maison et le repos. Mais il semble que parfois, le sort s'acharne. Guillaume le Gentil quitte Pondichéry en mars 1770. Il fait à nouveau escale sur l'île de France, pause méritée pour sa santé chahutée par les maladies tropicales. Je vous passe les détails, mais vous imaginez. Une fois remis sur pied, le scientifique embarque sur un navire et quitte l'île. Mais il revient après une errance en mer. Oui, les mâts du bateau ont été brisés par une tempête. Bloqué sur cette île qu'il finit par maudire, il ne trouve pas de bateau pour rentrer. Il prend finalement place sur un navire espagnol et essuie pas moins de 3 tempêtes avant de pouvoir passer le cap de Bonne-Espérance et remonter vers l'Europe le long de la côte africaine. Oh bonheur, après avoir traversé toute l'Espagne par la route, il foula enfin le sol français plus de 11 ans et demi après son départ. En novembre 1771, le gentil est à Paris, en route vers sa maison à côté de l'observatoire. Quelle n'est pas sa surprise d'y trouver quelqu'un. Nicolas de Condorcet, mathématicien astronome, a été nommé à sa place à l'Académie et loge tout bonnement chez lui. C'est de sa bouche que Guillaume le Gentil apprend que tout le monde, ses collègues et amis de l'Académie ou sa famille normande, le croient en vérité mort. Il faut avouer que ça fait 2 ans que personne n'a reçu la moindre lettre. On a d'abord cru qu'il avait succombé aux sirènes de l'argent facile dans ses lointaines colonies avant d'en déduire qu'il n'était tout simplement plus de ce monde. Épuisé par un si long voyage, bien vivant mais atterré par ce qu'il apprend, Guillaume n'a d'autre choix que d'accepter d'être invité à passer la nuit dans son propre logis. Le gentil a perdu son poste à l'Académie et les privilèges qui vont avec, et il ne tarde pas à découvrir qu'en Normandie, son frère et sa sœur ont commencé à se partager son héritage. Si son poste à l'Académie lui est vite rendu, il lui faudra encore subir des mois de maladie à Paris avant de faire son retour à Coutances, son village normand, pour prouver sa santé à sa famille et s'engager dans un procès avec le fondé de pouvoir qui a géré ses affaires en s'accaparant 1/3 de ses revenus. Mais comme un énième coup du sort, il perd son procès. Énième, mais pas dernier. Enfin réhabilité, Guillaume le Gentil trouve finalement la paix du foyer auprès de sa femme qu'il a épousée en 1774, 3 ans après être rentré, et de leur fille. Il continue son travail à l'observatoire et se lance dans la rédaction de ses mémoires avant de diriger l'Académie des sciences à partir de 1790. Loin des aventures, des moustiques et des tempêtes, il s'éteint paisiblement 2 ans plus tard, avec la certitude de trouver enfin le repos.
Bien mérité.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Guillaume le Gentil, nous sommes avec celui qui lui consacre un livre tout entier, qui d'ailleurs a permis à Stéphane de raconter ce récit, Christophe Migeon. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Bonjour Christophe Migeon, vous êtes journaliste spécialisé dans les voyages et l'histoire. Et c'est donc un voyage mouvementé dans l'histoire que vous nous offrez avec votre nouveau livre, Mauvaise étoile ou les calamiteuses mais véridiques tribulations d'un astronome dans les mers de l'Inde, qui vient de paraître aux éditions Paulsen. Le titre de votre ouvrage est long, mais on ne peut plus explicite. On a affaire à un véritable poissard de l'histoire, hors catégorie, hein, il faut bien le dire, avec Guillaume le Gentil. Vous l'avez découvert comment ?
Comme les rares personnes qui le connaissent, car c'est un homme relativement anonyme, eh bien, j'ai fait sa connaissance sur Internet, tout simplement. Internet, en fait, les gens, vous savez, sont très cruels. Ils aiment se moquer des poissards. Si vous cliquez le gentil, vous allez trouver toute une litanie de titres plus ou moins racoleurs, du style l'astronome maudit, comment mourir deux fois en cherchant Vénus. La fiche Wikipédia à ce titre est vraiment édifiante. De mémoire, ça donne quelque chose comme ça. Le gentil était un astronome resté célèbre pour l'incroyable malchance dont il fut victime lors de ses tentatives infructueuses de chercher Vénus. Voilà, tout est dit.
Mais ça vous a donné envie d'aller plus loin.
Ah, tout à fait, oui. Parce qu'en fait, derrière le personnage, derrière le poissard, il y a un aventurier, il y a un homme. Faut pas se cantonner à la poisse.
Mais c'est un aventurier un peu malgré lui. Son but, c'est quand même juste de voir l'étoile, ou il avait juste envie d'aventure et c'était un peu un prétexte d'aller observer cette étoile à l'autre bout du monde. Pourquoi à l'autre bout du monde, d'ailleurs ? On la voyait mieux à Pondichéry ou à Manille ?
Oui, l'idée, c'était d'expédier des observateurs un peu partout sur toute la planète. D'accord. Et en rassemblant leurs travaux, on arrivait donc à estimer plus ou moins la distance de la Terre au Soleil. Voilà.
Est-ce qu'on sait si à l'époque, en 1761, je crois, et 69, est-ce que d'autres envoyés spéciaux pour essayer de calculer ça ont réussi leur coup, eux ? Est-ce qu'on a pu mesurer cette distance ?
Il y en avait des centaines. Et c'est l'un des premiers exemples de coopération internationale à l'échelle européenne. C'est-à-dire que l'Angleterre, la Russie, l'Allemagne, la Suède ont envoyé des observateurs un peu partout dans le monde. Et beaucoup ont réussi.
C'est un peu comme les vaccins aujourd'hui, on n'est pas les premiers.
Il y a eu plusieurs Français. Il y a notamment un de ses copains qui s'appelle Jean-Baptiste Chape d'Autroche, qui lui est parti d'abord le premier en Sibérie. Excellente condition, excellente observation, mais il a trouvé le fond de l'air un peu frais en Sibérie. Donc pour le deuxième transit, il a demandé à être envoyé dans un pays chaud. Ce qu'on a fait, qu'à cela ne tienne, on l'a envoyé à la pointe sud de la péninsule de Californie, à l'ouest du Mexique, Baja California. En débarquant à Cabo San Lucas, il voit des Indiens qui s'avancent vers lui et qui lui parlent de vomito negro. Vomito negro, c'est le typhus.
Oui, vomir noir.
Ouais, très bien. Monsieur est bilingue.
Ah, quasiment. Quasimente.
Et donc, au lieu de repartir, Jean-Baptiste de Hautroche, Chape de Hautroche, décide de rester pour son observation qu'il fait. Et en plus, il calcule qu'il va y avoir une éclipse de lune dans 15 jours. Donc, il reste. C'est un bon samaritain. Il va aider les Indiens qui sont dans le besoin, dans le village d'à côté, évidemment, ils tombent malades, toute l'expédition tombe malade. Il y aura un survivant sur les 7 membres de l'expédition qui va rentrer 2 ans plus tard à Paris et raconter tout ça. Alors, quel est le plus poissard ?
C'est vrai.
Non, mais, oui.
Mais alors, comment vous avez fait pour étudier la vie de Guillaume le Gentil ? Vous avez trouvé, vous êtes allé à l'Académie des sciences, vous avez enquêté comment ?
Je me suis d'abord plongé dans son ouvrage, je me suis farci quand même 1500 pages de ses 2 tomes, de son récit de voyage, oui, quand même, je mérite.
Ah, ça se trouve encore dans le commerce.
Mais vous le trouvez sur Internet, éventuellement, si vous avez de l'argent, ça doit valoir un peu cher maintenant. Donc 1500 pages de 2 tomes sortis en 1779. Et donc, ils sont dédiés au roi Louis XVI, puisque Louis XV, qu'il avait envoyé là-bas, était mort 5 ans auparavant. Et donc, alors, je peux vous dire que 80% de l'ouvrage, c'est essentiellement des tableaux de force et de direction du vent, des calculs de latitude, des calculs de longitude grâce à l'émersion et l'immersion des satellites de Jupiter.
C'était un bon astronome. Enfin, il était poissard, mais c'était dans son métier, il était bon.
Très bon astronome. C'était un besogneux. Quoi. Le gars qui savait son boulot, mais qui n'a pas eu la chance, c'est le cas de le dire, de mettre à profit ses talents.
Pourquoi il est parti tout seul ? Il aurait pas pu.
Mais ça coûte cher.
Oui, mais l'autre, il est parti avec une expédition. Au moins, on aurait pu annoncer qu'il allait être de retour 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard, vous voyez.
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il voulait tellement partir qu'il a devancé les souhaits de l'Académie.
Ah.
Et l'Académie s'est sentie un peu les mains liées. Et ils ont vu ce gars débarquer. Moi, je veux y aller. Bon, il y a été, mais du coup, tu vas y aller tout seul.
Ouais. Allez, on va continuer à parler de nos poissards de l'histoire et de Guillaume le Gentil en particulier avec notre invité Christophe Migeon sur Europe 1. A tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Pas de bol, Stéphane, aujourd'hui on s'intéresse aux poissards de l'histoire. Il n'avait vraiment pas de chance, on parle de Guillaume le Gentil, cet astronome du 18e siècle. On en parle avec notre invité Christophe Migeon qui lui consacre un livre. Alors, on a raconté l'histoire de cet astronome vraiment malchanceux. Ce qui est dingue, c'est le côté un peu sériel de la malchance qui le contamine, on dirait, dans tous les domaines. Alors, on ne va pas faire un inventaire à la Prévert, mais entre le déchaînement des éléments, la maladie, le mauvais timing, ses proches qui l'ont enterré vivant, la perte de son procès à la fin, aucun domaine n'échappe à sa loose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vraiment, il est malchanceux dans tous les domaines, ce pauvre homme.
Rappelez-vous ce que disait Chirac. Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Et dans le cas de Le Gentil, c'est la patrouille de France. C'est un show aérien. Oui, il n'a pas eu de chance, ce pauvre gars. D'autant plus que je suis retourné à Coutances sur les traces de l'enfant du pays. La ville n'a rien fait pour lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul monument en ville, jardin des plantes, pas une statue, pas un buste, aucun
Stéphane,
monument.
Une mission pour vous.
Non mais moi je sauve les vieux monuments, mais
vous pouvez mettre une plaque quelque part quand même.
Oh. Il y a néanmoins un boulevard Le Gentil qui ressemble à un parking bordé de tilleuls avec 2-3 bagnoles qui se battent en duel, voilà le tableau. Alors, pour avoir un monument, quand même il y en a un. Il faut aller tout à l'est, donc au lieu-dit La Galésière, là où se trouvait le manoir.
Le manoir n'existe plus.
Le manoir n'existe plus, il a été détruit. Les services des archives de la ville m'ont conduit à l'endroit où il y a un terrain en friche derrière une ferme. On voit un départ de tour, c'est tout ce qui reste du manoir.
Oui.
Et en poursuivant sur cette rue de La Galésière, 100 mètres plus loin, on tombe sur une petite placette bordée de transformateurs EDF. C'est pas l'endroit le plus glamour de la ville. Et on y trouve une stèle. En granit, j'imagine, qui a été réalisé par les élèves d'un lycée professionnel à côté, dédié à Le Gentil. Bravo, chapeau. On voit d'un côté la carte de Madagascar, le littoral est de Madagascar, qu'il a cartographié pour s'occuper durant les deux transits. Et on trouve aussi, de l'autre côté, un trois-mâts. Et donc, je vais vous lire le texte qu'on trouve dessus. « Gentil de La Galésière, astronome aventurier malgré lui, parti observer dans l'océan Indien le passage de la planète Vénus devant le Soleil, il revint en France après 7 années d'aventure et de malchance. » Je vous rappelle qu'il est parti 11 ans et 6 mois. Il ne faut vraiment pas avoir de bol pour que, même sur le seul monument qui vous est dédié, on se trompe dans le décompte de vos voyages.
Ah non, mais...
C'est extraordinaire.
Ça, c'est... Mais vous faites souvent remarquer, Christophe Migeon, que souvent, je vous cite, « l'infortuné refuse le hasard et préfère se placer sous la coupe d'une guigne structurelle. » Rien de cela chez Guillaume le Gentil.
Non, en fait, il reste digne. C'est quelqu'un qui reste digne, qui ne va pas s'avachir dans l'auto-apitoiement. C'est vrai que souvent, il est tentant de se dire on est victime du sort. Ça permet de se dégager de ses responsabilités. Mmh. C'est écrit, donc. À quoi ça sert de me débattre, puisque tout est écrit? Mais lui, non, Le Gentil, non, il n'est pas du tout comme ça. Il n'est pas de cette farine-là.
Mmh. Donc, il ne se décourage jamais. On n'a pas de trace de découragement
dans ses écrits. Si. Bon, alors, dans son récit de voyage, ce récit, il est destiné à être lu notamment par ses collègues de l'Académie. Donc il ne peut pas non plus s'épancher et tout raconter. En plus, il est dédié au roi Louis XVI, qu'il a peut-être feuilleté. C'est un gros lecteur, Louis XVI. Donc peut-être l'a-t-il feuilleté.
Et surtout, c'est des sujets qui le passionnaient, la géographie.
Et je ne suis pas sûr qu'il l'ait lu, hein, mais il a dû le feuilleter un petit peu, en tout cas. Mmh. Et donc, de temps en temps, il fend l'armure, néanmoins. Et il se laisse un peu aller. Mmh. Et je vais vous lire quand même les deux passages, deux phrases qui sont assez poignantes. Là, on est... Après le deuxième ratage,
observation. Là, il
est au fond du trou, là. Oui. Ça, là, grosse déprime, là, quand même. Là, c'est gros coup de mou. Enfin, je fus plus de 15 jours dans un abattement singulier, à n'avoir presque pas le courage de prendre la plume pour continuer mon journal. Elle me tombera plusieurs fois des mains lorsque le moment vint d'annoncer en France le sort de mon opération. Et un peu plus loin, il continue. J'avais fait près de 10 000 lieues. Il semblait que je n'avais parcouru un si grand espace de mer en m'exilant de ma patrie que pour être spectateur d'un nuage fatal qui vint se présenter devant le soleil au moment précis de mon observation pour m'enlever le fruit de mes peines et de mes fatigues.
Oui, mais vous voyez, c'est poignant, mais en même temps, c'est tellement bien écrit que...
Oui, on savait écrire à l'époque.
On savait écrire à l'époque, plutôt que de se regarder le nombril. Dites-moi, sans l'accabler, Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que tout ce qui lui arrive dans son destin, c'est un peu lié à sa personnalité aussi? C'est-à-dire que, je ne dis pas qu'il a tiré...
Bah, le nuage, il n'y est pour rien, le
pauvre. Non, le nuage, non, oui. Mais quand vous vous appelez Guillaume le Gentil...
Il était né du signe du scorpion. Remets-moi une suze.
Mais il était un peu naïf, non?
C'est le gentil ou le patronyme, vous pouvez dire ça. Alors, quand on écrit la vie de quelqu'un, on a tendance à s'identifier un peu à lui, forcément. Oui. Moi, je me suis bien identifié à le gentil.
Ah, vous êtes poissard, vous aussi.
Alors, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire lors du premier confinement. Donc, je vous rappelle que je suis journaliste pour les magazines, pour les rubriques voyage.
Oui.
Ah oui, j'étais un petit peu impacté par le virus. Donc, j'avais perdu, en gros, mon boulot. Et en plus, j'avais des gros problèmes personnels à l'époque, au même moment. Donc, ça commençait à faire beaucoup. Donc, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, mauvaise étoile. Et je me suis vraiment identifié à ce gars-là et ça m'a rassuré.
Oui.
Ça m'a rassuré de voir quelqu'un qui surmonte, qui avait des obstacles autrement plus compliqués que les miens et qui arrivait à les surmonter. En fait, il y a deux séries de populations qui fascinent les gens. Il y a les serial killers, qui leur font peur.
Oui.
Et les serial losers. Qui les rassure, parce qu'ils se disent, tiens, voilà, il y a pire que moi.
Mais vous voyez, dans tout ça, il a quand même une chance, le gentil, c'est qu'il n'est pas mort dans ses voyages.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il a fini quand même patron de l'Académie des sciences.
Et tout à fait, et il se passe 20 ans entre son retour et sa mort, et il a eu la chance de mourir en 1792, parce que c'était pas un scientifique des Lumières, il était très royaliste, très conservateur.
Oui, un an plus tard, à mon avis, il perdait la tête.
Voilà, il était. Il faisait un tour de charrette un an plus tard. C'était évident.
Et puis, on aurait raccourci le nom et pas que le nom.
Moi, ce que je n'ai pas très bien compris, j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi, quand il arrive en France, on croit qu'il est mort. Il devait envoyer des lettres à l'époque. Ces lettres n'arrivent pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Toutes les lettres qu'il a envoyées se sont soit perdues, soit les navires sur lesquels ces lettres étaient chargées ont coulé.
C'est infernal.
Ah non, mais c'est infernal. C'est-à-dire, chaque fois, il a la poisse.
C'est la loose.
La loose jusqu'au bout.
Mais voilà, j'aimerais bien qu'on arrête de se moquer de lui un petit peu. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce bouquin. C'est un aventurier avant tout. Voilà. Mmh. C'est un gars qui prend des risques.
Mais j'aime bien votre phrase. Vous avez cette phrase. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Le gentil en a une et elle mérite d'être compté. Mmh. Et c'est vrai que les malchanceux ont aussi droit à passer à la postérité et à retrouver une certaine dignité dans l'histoire. Voilà, mauvaise étoile ou les calamiteuses mais véridiques tribulations d'un astronome dans les mers de l'Inde, paru aux éditions Paulsen. En tout cas, merci Christophe Mijon d'avoir réhabilité ce Guillaume le Gentil qui finalement nous est fort sympathique.
Oui, et nous a fait relativiser notre propre malchance.
Exactement.
C'est pas mal.
Et oui, parce que vous voyez, quand je perds au quiz.
Oui, ça va venir, ça va arriver.
Je suis dans la déprime, mais là,
il y a
pire que moi.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires toujours vérifiées, sans jamais trahir la vérité. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez celui qui a trahi, oui, trois fois, Judas. Véritable symbole de la trahison.
Ben oui, en réalité, j'étais dans une inspiration autour de Pâques et des monnaies antiques, mais finalement, c'est aussi un sacré poissard d'une certaine manière, Judas. Hein. Alors Judas, vous l'avez dit, il est trois fois, il a trahi le Christ, il l'a donc livré aux Romains pour 30 deniers.
Ça rapporte quoi, 30 deniers en euros?
Eh ben écoutez, ben justement, voilà. Alors déjà, le denier n'est pas une monnaie d'or, c'est une pièce d'argent. Et ce mot denier, ça vient du latin denarius. Et c'était une des monnaies de base de l'Empire romain. Il avait cours dans la majorité de l'Europe, la totalité de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Et puis, il s'est perpétué jusqu'au Moyen-Âge, dans les royaumes d'Occident, bien sûr. Des deniers, on utilisait des deniers au Moyen-Âge ici. Hein. Et puis, dans les pays arabes, le denier est devenu le...
Dinar.
Le dinar,
oh,
voilà,
Stéphane,
bravo,
j'ai une
exactement,
bonne réponse que
voilà.
J'ai trouvée.
Merci, historiquement vôtre. Hein. Alors, le denier, c'est donc une pièce d'argent qui a été créée en 212 avant Jésus-Christ pour financer la deuxième guerre punique. Les guerres puniques, c'est Rome et Carthage. Hein. Et le denier pesait dans les 4 grammes d'argent. Alors, on peut déduire de cette information que Judas l'Iscariote aurait livré le Christ, si c'est 30 deniers qui font chacun 4 grammes, ça nous fait donc 4 x 30, 120 grammes d'argent. Vous êtes d'accord?
Ah oui.
Au cours actuel de l'argent, la valorisation de cette trahison semble assez dérisoire, en fait, puisque une once d'argent, dont 30 grammes, vaut aujourd'hui dans les 20,50 €.
Oh oui.
Voilà, 120 grammes, ça fait 4 onces, 4 fois 20,50 €, 82 €.
Pour et trahir ça dit, le Christ,
ben voilà,
plus, hein.
82 €, c'est pas génial. Alors maintenant, je vous rassure, c'était mieux que ça, parce que les cours actuels de l'argent sont très très bas. Sous l'Empire romain, le ratio or-argent est de 12 contre 75 de nos jours. Ça veut dire qu'il faut 75 onces d'argent pour acheter une once d'or de nos jours.
Vous avez perdu Stéphane, c'était un littéraire.
Bon, je vous ai perdu Stéphane, mais vous allez... Suivez-moi quand même. C'est normal d'ailleurs que l'argent soit moins cher, parce que l'argent est 20 fois plus abondant que l'or en ce bas monde. Mais ça, les Romains ne le savaient pas, eux, évidemment. Donc le ratio entre les deux était moins grand. Donc l'once d'or aujourd'hui, c'est dans les 1520 €.
Ah oui.
Et au cours de l'or aujourd'hui, avec un ratio de 12, ça hisse le prix de la trahison de Judas à 600 €. C'est pas rien. 600 €.
C'est pas suffisant.
Non, bah, en plus...
Oui, enfin, je vous rappelle que sur le plan...
c'est pas... Vous vous trahiriez pour plus que ça, c'est ça. Alors, que vous êtes en train de nous
trahir,
dire.
Stéphane, non, mais je l'annonce, c'est pas une question d'argent,
il eût fallu qu'il le trahisse pour que le miracle puisse s'accomplir.
Pour que son destin s'accomplisse, naturellement. De toute façon, cette évaluation n'est pas plus réaliste, parce que les soldats de l'Empire romain avaient un salaire considéré comme confortable à l'époque, qui était s'élevait à peu près à 500 deniers par an, sans compter les primes de campagne, les primes d'expatriation, parce que quand vous habitez Rome, qu'on vous envoie en Palestine, vous n'avez pas envie. La cantine, les réductions sur le vin, tout ça, ça faisait pas mal. Donc ces 30 deniers, en réalité, que touche Judas pour trahir le Christ, ça équivaut à peu près au pouvoir d'achat d'un mois de salaire de base d'un légionnaire romain, donc en gros un SMIC, si vous voulez. Donc c'est à peu près 1500 €. Donc c'est pas mal. 1500 €, un salaire mensuel pour trahir le Christ.
Pour trahir Jésus ?
Ben oui, mais enfin, de toute façon, il n'en a pas beaucoup profité. Il est allé se pendre, le malheureux Judas, à un arbre qui porte aujourd'hui le nom d'arbre de Judée. C'est l'arbre auquel s'est pendu Judas. Alors, après les deniers de Palestine, passons aux talons de la Grèce antique. Est-ce que vous savez que quand une cité grecque était trop endettée, elle empruntait aux dieux ? C'est ce que raconte Thucydide. En 409 avant Jésus-Christ, Athènes, à la tête de la puissante ligue de Délos, Athènes affrontait sa rivale Sparte. Hein, c'est les guerres du Péloponnèse. Et comme Sparte occupe une partie du territoire où Rome a des mines d'argent, extrait son argent, Athènes. Athènes manque d'argent. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à financer la guerre? C'est là que Périclès fait la suggestion d'emprunter aux dieux, de toucher au trésor des dieux pour continuer les combats. On prend les trésors, les objets sacrés et on se renfloue. Et on va même choper l'or qui revêtait la statue géante d'Athéna à l'intérieur du
Parthénon.
Mais
on ne disait pas qu'ensuite on allait être maudit par les dieux?
Ah ben on empruntait, c'était pour le rendre après.
Bien sûr.
Alors la statue d'Athéna, c'était dans les 40 talents d'or, c'est-à-dire une tonne d'argent. Hein. Et l'inventaire des objets sacrés du Parthénon garde encore les traces de toutes ces ponctions successives, mais aussi de la reconstitution du trésor après la fin de la guerre. C'était pas si exceptionnel. Hein. Il y a plusieurs traces de ces emprunts réguliers de la cité au trésor de Délos et leur remboursement. Alors la ville emprunte aux dieux tout le temps pour dresser des fortifications, pour acheter du grain, pour faire des dons à des cités ou des rois amis. Évidemment, sans doute, comme créanciers, les dieux étaient bien plus redoutés que des créanciers en chair et en os. Hein. Et donc, bien sûr, on leur rendait ce qu'on leur avait chouré. Et à l'époque, jamais les Grecs n'auraient perdu leur triple A, hein, avec le trésor des dieux. Alors voyez-vous, création du denier pour financer les guerres puniques, escamotage du trésor des dieux pour financer les guerres entre cités grecques. Et oui, l'argent, hélas, a toujours été le nerf de la guerre.
Bravo Clémentine.
Eh bien, on va aller du côté du pont Alexandre III, gratter un petit peu l'or des statues pour ensuite
se refaire. Peut-être on peut aller au Vatican.
On le rendra.
Quelques œuvres d'art
de Michel-Ange.
Et en même temps, c'est beau ce trésor du Vatican, parce que c'est vrai que c'est au pouvoir temporel de l'Église qu'on doit les galeries vaticanes, et qui est quand même un des plus beaux trésors en ce bas monde, et à la piété des gogos que nous avons tous été aujourd'hui, hier, demain, ou que nous serons. Et qui ont craché au bassinet du...
Non, ne vous emportez pas, Clémentine, tout va bien se passer. On va opérer dans un instant. Allez, on passe la camisole de force, et dans un instant, Burn to be Alive.
Il a lancé lui-même ce quiz dans lequel il triomphe chaque jour.
C'est non, il faut Stéphane. La faire taire à un moment.
Vous avez raison. Effectivement, c'est une belle transition. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Dans cette épreuve redoutable qu'on appelle le quiz, Stéphane Bern le sait, il fait partie des gens qui ne peuvent pas tout miser sur leur culture générale.
Mais je peux pas miser
pour
sur le physique non plus.
Pour l'emporter face à une érudite aussi balèze en histoire que Clémentine, Stéphane le sait, son meilleur atout c'est...
La confiance en Dieu.
Prions pour lui et jouons à Berne Poudiala. Stéphane,
je me repens d'avoir accepté de présenter une émission avec vous.
En le Seigneur. De nombreux monuments sont fermés pour cause de Covid. Vivement qu'on puisse de nouveau, par exemple, revisiter l'ancien collège royal et militaire de Thiron-Gardé, sa collection d'objets historiques qui nous en disent tellement sur la vie du collège au XVIIe siècle. L'audioguide...
Ça, par chance, je peux moi le visiter.
Vous allez voir, vous n'allez pas pour autant pouvoir répondre à la question. L'audioguide est assuré par le maître des lieux, Stéphane Bern.
Oui.
Mais comme c'est écrit sur le site, la maison de Stéphane Bern ne fait pas partie de la visite.
Non.
Il n'offre pas non plus le gîte et le couvert, comme on dit. Heureusement, car gîte et couvert, c'est la même chose. Vrai ou faux?
Non.
C'est-à-dire quoi, non?
Non, c'est pas la même chose, le gîte et le couvert.
C'est votre réponse?
Oui, c'est ma réponse.
Vous avez...
J'aime bien quand ça va vite et qu'on va directement la mauvaise réponse.
Mais
c'est un piège, Stéphane. Ouais. Si je vous pose la question, le gîte et le couvert, évidemment, on se dit c'est des choses différentes. Le gîte et le couvert.
Oui.
Et non, le couvert, c'est en fait le couvrant.
Le couvrant,
donc
absolument.
Le toit. Autrefois, d'ailleurs, on disait le vivre et le couvert pour éviter la redondance. C'est donc aujourd'hui devenu une expression redondante et mal à propos, si j'ose dire.
Je suis pas tout à fait.
Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis?
Non, c'est... Enfin, on faisait une distinction entre le fait d'être sous un abri et d'être invité à y dormir.
Mais vous savez que je vous adore. Hein, donc, si vous voulez, qu'on coupe la poire en deux, je vous donne un demi-point, si vous voulez.
Demi-point. Non,
si.
j'accepte si. Votre. J'ai commis un péché. J'ai commis une erreur.
C'est pas trop dur avec vous-même.
Il est cuit.
C'est pas tout de suite un péché. C'est juste une erreur, Stéphane. On est juste dans un quiz.
Oui.
Tout va bien. Vous n'avez pas besoin d'aller à confesse. Alors, je vous donne un demi-point. Vous êtes trop sympa. Question numéro 2. Clémentine Portier-Keltenbach. Phryné offrait des services sexuels durant la Grèce antique. Elle était très réputée dans son domaine et pratiquait des tarifs très élevés. Un jour, elle est accusée de pervertir les jeunes femmes d'Athènes. La légende veut qu'elle ait offert gratuitement ses charmes à toutes les personnes présentes dans le jury. Vrai ou faux?
Non, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois qu'elle a... Est-ce que ça n'est pas Phryné qui a servi de modèle à Phidias pour une statue sublime? Et est-ce qu'elle ne s'est pas simplement dévêtue pour montrer la beauté de son corps et à quel point il était logique qu'elle fût désirée par tous les hommes de la cité? Donc je réponds non.
Vous répondez faux.
Vous avez...
Vous avez gagné un peu par chance, puisque ce que vous avez expliqué n'a rien à voir avec ce que je vais expliquer moi.
D'accord.
Phryné était une célèbre hétaïre, une femme très éduquée offrant de façon ponctuelle des services sexuels. Elle a bien été accusée dans un procès. La légende dit que durant le procès, en manque d'arguments, son avocat a déchiré la chemise de Phryné. Le jury a été tellement séduit qu'elle a été
accusée. Cher monsieur, vous vous trompez, car je pense que Phryné a bel et bien été un modèle de Phidias, et que dans ce même événement, elle a déchiré sa tunique pour montrer que il était normal qu'on succombât à ses charmes, me semble-t-il.
Vous savez quoi, vous m'êtes sympathique aussi. J'ai envie, Clémentine, de vous offrir aussi un demi-point.
Merci.
Égalité. Un demi-point partout.
Mais elle a répondu juste.
Oui, elle a certes bien répondu, mais elle s'est permis quand même, ce qui ne se fait jamais dans un jeu, de contester un résultat.
Oui, c'est vrai.
Pour rébellion, j'ai un point de pénalité.
Égalité, on repart à zéro. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Évoquons Jack Kerouac, écrivain et poète américain, source d'inspiration de Bob Dylan. Il a écrit notamment en 1957 Sur la route, le roman phare de la culture beatnik. Et particularité de cet ouvrage, il a été écrit sur la route. Les chapitres sont nommés du nom des villes qu'il traversait. On peut lire le roman tout en suivant son trajet. Vrai ou faux?
Je crois que oui, puisque beaucoup de gens ont été sur la route justement de Kerouac.
Ils ont fait le voyage Kerouac finalement.
Exactement,
Et voilà, chaque jour on lit un chapitre et on est dans la ville. C'est comme ça que vous voyez les choses.
Je ne peux pas vous aider.
Je crois, je vois les choses comme ça, mais maintenant, vous savez, je doute de tout.
Vous remettez tout en cause.
Oui.
Mais
oui.
Pas votre foi en Jésus-Christ, quand même.
Enfin, si je doute de tout.
Est-ce que Kerouac a eu le gîte et le couvert sur la route 66?
Donc vous répondez vrai. ou faux.
Je pense que c'est vrai.
C'est vrai.
Vous avez
perdu.
Il est balèze en histoire, un peu moins en littérature. Ça fait longtemps qu'il n'a pas lu sur la qu'on le sait. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas lu sur la route de Kerouac. Oui. Non, ça n'a pas. Il n'y a pas un chapitre par ville. En revanche, il a été écrit ce livre culte en un seul jet, en 3 semaines, sur un rouleau de papier de 36 mètres de long. Il n'a été édité que 6 ans plus tard. Kerouac ayant dû retravailler ce premier jet, mais ce premier jet a également été publié une fois que le succès s'est confirmé. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Capelle. Je rappelle qu'il y a un demi-point partout. Alors attention, c'est une question. On va voir si vous écoutez bien notre émission. C'est la deuxième partie de l'émission, c'était jeudi, vous n'étiez pas présente, mais David Cassel-Lopez nous en a parlé. Qu'est-ce qui est arrivé en premier ? La première fois où aux États-Unis on a scanné un produit avec un code barre, ou la première fois où en France, Jeanne Masse a chanté
Le début des codes-barres.
Il y a beaucoup de paroles.
Et encore à Sciences Po.
Les gens ne chantaient pas ça.
C'était bon.
Moi, je pense que Jeanne Masse a changé.
Jeanne Masse, pour vous, c'est Jeanne Masse.
Oui, c'est Jeanne Masse. Ouais. Non, c'est Jeanne Masse. Ouais. Oh, d'accord. Jeanne Masse. Je pense que Jeanne Masse a chanté toute première fois avant les premiers codes-barres. Ah, mais il y en a eu peut-être aux États-Unis. Attendez, redites-moi votre question. C'est en France
ou la première fois où aux États-Unis on a scanné un produit avec un code barre, ou la première fois où en France Jeanne Masse a chanté toute première fois. Qu'est-ce qui est le plus vieux, Jeanne Masse ou le code barre?
Eh ben moi je dirais Jeanne Masse.
Jeanne Masse est plus vieux que le code barre.
Ouais. Plus vieille dans ce cas.
À moins de révéler un scoop sur une opération qu'aurait subie Jeanne Masse. Vous avez perdu, vous l'avez entendu.
Oui. Non, j'ai rien entendu.
Vous avez perdu, je vous le confirme. Perdu, le code barre est plus ancien, c'était un paquet de chewing-gum, David nous l'avait raconté, ça se passait dans l'Ohio en 1974. Jeanne Masse a sorti sa toute première fois en 1980, 800 000 exemplaires
Six
vendus.
6 ans plus tard, quand même.
Ce n'est pas la toute première fois que vous répondez mal. Oui, on me signale en régie, effectivement, que le moment est venu, puisque nous sommes toujours à...
égalité.
0,5 points partout. Un score des plus lamentables de toute l'histoire de ce quiz. C'est donc la question 5 qui va vous départager la question de rapidité. En décembre 1985, j'avais 3 ans, la police de New York tente de mettre la main sur des délinquants, les délinquants les plus recherchés du moment dans la vie. Ils vont réussir à récupérer 101 fugitifs d'une manière un peu particulière. Laquelle ? On leur a envoyé des invitations pour un match de foot. On a mis leur maman en prison. Où on leur a promis une console de jeux vidéo dans leur cellule.
3-1.
La réponse a fusé. Dirait-on qu'il avait entendu parler de cette histoire. C'est une bonne réponse. Et c'est une victoire de Stéphane Bern dans le quiz. Stéphane Bern, mais quel historien. Mais vous êtes agrégé. Vous avez eu l'agrégation pour connaître tout ça.
J'ai désagrégé, là.
L'opération était baptisée Operation Flagship à l'occasion de l'inauguration d'une fausse chaîne de télésportive. Des invitations ont été envoyées pour un match de foot américain à 101 personnes qui étaient recherchées. Ils se sont présentés comme des cons, j'ai envie de dire, au stade. Où des policiers déguisés en stadiers n'ont eu, une fois les identités vérifiées, qu'à les mettre
marrant,
sous les verrous. Ils sont malins, c'est ricain, mais pas autant que Stéphane qui remporte le quiz. Bravo.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Pas tout à fait comme vous, Mathieu.
Je le confesse, Stéphane, c'est vrai que cette saison, il m'arrive de me la raconter un peu en disant que je travaille avec vous, aux gens que je rencontre, et c'est super parce qu'on m'offre plein de trucs.
Non, arrêtez.
Beaucoup plus, en tout cas, que quand je ne suis que moi. Et quand je vois tout ce qu'on m'offre, rien que parce que je bosse avec vous, je réalise que vous, vous ne devez rien payer du tout. Jamais.
Ah,
vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais c'est vrai, à la boulangerie, vous bossez avec Stéphane Bern ? Oh, je vous mets une chocolatine en plus. À Barbès, oh, vous bossez avec Stéphane ? Je vous mets 50 grammes en plus. C'est toujours comme ça.
Je vois pas du tout à quoi vous faites référence,
non,
Mathieu.
Moi non plus.
En plus, c'est très dévalorisant pour Barbès. Ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup de chance, contrairement à nos personnages du jour, qui eux n'ont pas eu de bol.
C'est sûr.
On réunit cet après-midi des poissards de l'histoire. Après Guillaume le Gentil, je vous raconte le destin semé d'embûches d'un poids lourd de la littérature française, Honoré de Balzac. Et vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait d'un malchanceux plus contemporain, plus fictif aussi.
C'est toute la question. Pierre Richard, alias le grand blond avec une chaussure noire, est-il vraiment aussi malchanceux dans la vie que dans ses films ? Et peut-on vraiment dire d'un homme qui a tenu dans ses bras Mireille d'Arc avec le dos nu le plus excitant de l'histoire du cinéma qu'il est malchanceux ? Je pose la question.
Et vous y répondrez.
Si je suis payé.
Sans oublier nos chroniqueurs, qu'ils sont eux aussi payés. David Cassello-Lopez, qui nous raconte les origines de quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Bon, là, j'ai un peu de doute sur le gilet pare-balles, si vous voulez. Bien, tu as dit, vous savez, on n'imaginait pas qu'un jour, on allait mettre des masques tous les jours. Maintenant, c'est le cas.
C'est possible. Donc, peut-être... 2020, le masque de
2030.
2022,
en 2030,
peut-être.
En 2030, on aura tous un gilet pare-balles.
Tout le monde. Oui, on saura, en tout cas, je voulais vous expliquer, en tout cas, vous savez.
Et il y a un inventeur, vous pouvez déjà nous dire s'il y a un homme qui a inventé le gilet pare-balles.
Non, il y a des gens qui se sont rendus compte d'un certain nombre de phénomènes et qui ont aidé à la réalisation du gilet pare-balles.
Il arrive à nous vendre le gilet pare-balles avec une voix érotique. On ne sait pas pourquoi.
C'est parce que ma phrase n'était pas très intéressante.
Oui, vous l'avez rendu sexy. Voilà, par une intonation, ça, c'est du métier.
Ce qui est sexy, c'est le cordon bleu.
Oh là. Là. Vous avez vraiment des drôles de mœurs, Stéphane.
Ça vous fait plaisir, vous aimez ça le cordon bleu
ça. Ouais.
Moi aussi en fait.
Mais c'est, vous avez raison, tout à l'heure vous le disiez justement et vous allez nous le redire, c'est très mal fait parfois.
Ah oui, c'est un plat très industrialisé dans la plupart des cas, mais ça peut se faire à la maison et c'est très bon. Et d'ailleurs, pourquoi dit-on de quelqu'un qui cuisine bien que c'est un cordon bleu. Mais ça je vous le dirai tout à l'heure
en fait.
C'est mon cadeau bonus.
Vous chassez sur les terres de Stéphane
Oh, vous savez, vaut mieux être nombreux sur un bon coup que tout seul sur un mauvais. C'est pas de moi, c'est de Marina Vladi. À propos de Roger Vadim.
Stéphane, vous aurez le mot de la fin et je crois que c'est mérité quelque part. C'est mérité aujourd'hui. Quelle expression vous nous expliquez.
Mathieu, parfois, on pourrait croire que vous ne faites aucun tri concernant toutes vos blagounettes dans l'émission. Eh bien, pas du tout. Elles sont triées sur le volet.
Ah,
mais c'est quoi ce volet? D'où ça vient cette expression?
Pas celui qui ferme les fenêtres, en tout cas.
Rien à voir.
Nous découvrirons ça en fin d'émission. Mais tout de suite, découvrons notre deuxième malchanceux de l'histoire. Il avait du talent, mais il avait aussi des dettes. Beaucoup de dettes. Stéphane Bern nous raconte Honoré de Balzac.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il a honoré la littérature française de ses écrits, mais il n'a pas honoré ses dettes tout au long de sa vie. Une vie plus compliquée qu'il n'y paraît, où il a enchaîné les déconvenues. C'est Honoré de Balzac, le poissard de la littérature que nous raconte maintenant Stéphane Bern. Et ça, c'est une chance.
Nous sommes à Paris en 1836, dans la prison où sont écroués les récalcitrants tentant de se dérober au service de la garde nationale. En ce 27 avril, un hôte de marque fait son entrée. Honoré de Balzac, l'un des plus fameux romanciers de son siècle. Celui qui est déjà un auteur à succès a réussi plusieurs fois à passer entre les mailles du filet, mais c'en est trop pour l'administration qui le fait enfermer. À peine arrivé, Balzac convoque son éditeur et lui demande de l'argent. Il ne compte pas croupir longtemps dans sa geôle, mais a tout de même l'intention d'en profiter. Durant la semaine qu'il passe emprisonné, il arrange sa cellule avec fauteuils et chandeliers, se fait livrer les mets les plus raffinés et invite son éditeur à partager sa table fastueuse avant de rapidement retrouver la liberté. Étonnante histoire, parfaitement à l'image de Balzac. S'il est honoré comme l'un des écrivains les plus prolifiques de son temps, étudié bon ou malgré par des générations de collégiens, admiré pour sa capacité à avoir su saisir la société et les mœurs de son temps dans la somme romanesque et la comédie humaine, Balzac aura toujours accumulé les ennuis, les dettes surtout, doué d'une étonnante capacité à les fuir ou les sublimer avec un certain panache. Balzac s'est souvent plaint d'être malchanceux. Le hasard, dit-il, m'a contraint à écrire mes désirs au lieu de les satisfaire. Le hasard ne fait pas tout. Ce sont surtout un train de vie incroyablement dispendieux et son piètre sens des affaires qui lui feront passer sa vie à rebondir sur les infortunes et à fuir les créanciers. Mais il faut bien admettre que la chance lui a manqué. Tout d'abord, car sa carrière littéraire commence par un échec. En 1820, financé par ses parents qui lui laissent 2 ans pour faire ses preuves d'écrivain, il compose Cromwell, une tragédie. Sa famille, dubitative quant à la qualité des Alexandrins, soumet le texte à l'académicien François Andrieux. La vie est sans appel. L'auteur doit faire quoi que ce soit, excepté de la littérature. Peu engageant, vous en conviendrez. Mais Balzac sait qu'il sera écrivain et surtout, il sera célèbre. Encore mieux, il sera riche. Balzac commence à vivre de ses écrits, produisant sous pseudonyme des cochonneries littéraires, comme il les appelle, pour des éditeurs exploitant une armée de petites mains. Il gagne peu et certainement pas assez. Il vise alors la fortune en devenant éditeur, avec l'idée novatrice de publier des classiques illustrés dans un format compact. Mais les ventes ne décollent pas. Il décide donc de devenir imprimeur pour mieux gérer l'affaire. Mais ça ne marche pas, toujours pas. peu importe, il rachète une fonderie de caractère pour diriger toute la chaîne de production et s'assurer ainsi un substantiel profit. C'est un nouvel échec. En 1828, à seulement 29 ans, Balzac croule déjà sous les dettes. L'année suivante, son premier roman signé de son nom, Les Chouans, est un succès d'estime, mais pas encore un succès de librairie. La physiologie du mariage, puis La peau de chagrin, en 1831, le classe finalement parmi les auteurs qui comptent. Reconnu, certes, mais toujours pas fortuné. Il se lance alors dans le journalisme. Balzac est en fait à l'image de son personnage Lucien de Rubempré, que l'on retrouve dans Les Illusions perdues ou Splendeur et misère des courtisanes. Provincial ambitieux, voulant briller par son verbe, il adjoint une fausse particule à son patronyme et, se voyant refuser des romans écrits dans une mansarde, s'adonne au journalisme pour enfin parvenir à intégrer le grand monde. Les publications d'Honoré de Balzac dans de nombreux journaux en font un homme influent, mais il veut plus. Son ami Théophile Gautier raconte comment il a cherché à créer une sorte de société littéraire secrète du nom de Cheval Rouge, à l'image de la mystérieuse corporation de sa trilogie « L'Histoire des 13 ». Le but, Gautier le résume ainsi, s'emparer des journaux, envahir les théâtres, s'asseoir dans les fauteuils de l'Académie, se former des brochettes de décoration et finir modestement pair de France, ministre et millionnaire. Rien de moins. Les membres de la Société du Cheval Rouge ne se réuniront que quelques fois, bien incapables de payer les notes du restaurant qui les accueille. Pourtant, Balzac gagne sa vie. Il est lu dans toute l'Europe. Mais empêtré dans le cercle vicieux des dettes, il n'arrive pas à s'en sortir. Comme en 1835, quand il compte sur la vente de 1000 exemplaires de ses contes drôlatiques, mais pas de chance, le hangar où ils sont entreposés flambe dans un incendie. Pour se refaire, Balzac se tourne vers ce qui, à l'époque, paye le plus, le théâtre. Il fait adapter ses œuvres, souvent sous des formes à la limite de la caricature. Pourquoi ? Parce qu'il touche un tiers des droits. Et lorsqu'il s'implique lui-même, il connaît encore la malchance, comme en 1848, quand sa pièce « La Marâtre » obtient un certain succès, mais que le théâtre est fermé au bout de 5 jours, suite aux insurrections populaires au début de la Deuxième République. Balzac cherche aussi la fortune dans d'autres domaines. En 1838, il se rend en Sardaigne, sur les traces d'anciennes mines d'argent, regorgeant de minerais qui feraient la richesse d'un éventuel acheteur. Après moult péripéties, Balzac arrive trop tard. Un investisseur à qui il avait parlé du projet l'a doublé et a acquis les mines à sa place. Toute sa vie, il déménagea sans cesse pour échapper aux huissiers et aux créanciers, souvent sous de faux noms, obligeant les visiteurs à user de différents mots de passe. À l'image de son personnage du cousin Ponce, il court les antiquaires et collectionne compulsivement. Il emplit ses intérieurs de bronze, porcelaine, tapis luxueux et tentures précieuses. Il pense un moment trouver le lieu idéal à Sèvres, dans sa propriété des Jardis, compte en profiter de l'ensoleillement pour y développer un jardin luxuriant et même y faire fortune en cultivant des ananas. C'est sans compter sur le mur de sa propriété qui ne cesse de s'effondrer, entraînant toujours de nouveaux frais. En 1840, Balzac choisit une maison sur les hauteurs de Passy pour le calme champêtre autant que pour les issues sur 2 rues différentes lui permettant d'échapper rapidement aux fâcheux qui viendraient réclamer leur dû. C'est ironiquement rue Fortuné, qui porte désormais son nom, que Balzac s'éteint en 1850 auprès de la comtesse Anska qu'il avait épousée après 18 ans d'amours épistolaires et dont les deniers payèrent cette dernière demeure. Il en va souvent ainsi des grands hommes dont la vie s'oublie derrière leur œuvre. Celle de Balzac n'a certes pas toujours été chanceuse, mais elle fut aussi riche que celle de ses personnages. Et c'est certainement Baudelaire, louant celui qu'il admirait, qui le dit le mieux. Et vous, ô Honoré de Balzac, le plus héroïque, le plus singulier, le plus romantique et le plus poétique parmi tous les personnages que vous avez tirés de votre sein.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Honoré de Balzac, le malchanceux, nous sommes avec la romancière et journaliste Titiou Lecoq. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Titiou Lecoq. Vous avez publié une biographie subjective, drôle aussi, Honoré et moi, paru aux éditions de l'Iconoclaste et qui vient tout juste d'être réédité au livre de poche. Vous dites, parce qu'il a réussi sa vie en passant son temps à la rater, Balzac est mon frère. Pour une auteure, c'est vrai, c'est rassurant finalement de découvrir le parcours de combattant de Balzac.
Oui, je pense que c'est rassurant pour absolument tout le monde de sortir du mythe du grand homme, du génie absolu, etc., qui est très bien représenté par Victor Hugo. Mmh. On prend Balzac et on se rend compte qu'il est comme nous, c'est-à-dire qu'il
y a quand même... Il galère
à payer son loyer à la fin du mois. Il a des rêves de grandeur, mais ça se concrétise jamais. Il se prend des gadins avec ses amoureuses. Enfin, et plein d'espoir en même temps, parce que jusqu'au bout, il va y croire. Hein. Ça, c'est quand même sa force. Et ben voilà, ça, je trouve que ça le rend proche de tout le monde, quoi. Tout le monde peut s'identifier à Balzac.
Est-ce qu'il est très humain ou est-ce qu'il a une particulière malchance? Il est comme nous ou il est pire que nous?
C'est la question. Non, alors il est pire que nous. Non, mais c'est-à-dire, non, il est au-dessus. Alors c'est quand même un subtil mélange de, il a vraiment pas de chance, ça c'est vrai, et de très très mauvaises décisions. Et ça c'est assez fascinant, c'est-à-dire que normalement il y a un truc dans l'expérience humaine qui fait que on fait un mauvais choix et on apprend de ce mauvais choix. Et alors chez lui, jamais.
Oui.
Depuis le départ, il est convaincu qu'il a le sens des affaires.
Alors qu'il l'a absolument pas.
Il ne l'a absolument pas. Il va faire faillite sur faillite.
Il
n'y
a aucun business
bout,
qui marche. Il
a personne autour de lui pour lui dire non, mais là tu devrais pas te lancer.
Alors si, il y en a. Bah, par exemple, il y a sa sœur qui va lui dire l'imprimerie, je suis pas très sûre quand même.
Les
c'est
ananas.
Un métier. Bon, tu devrais peut-être pas tenter. Mais il est sûr de lui. Il en est convaincu. Oui.
De Balzac, on a souvent l'image d'une grande force d'écriture, celle, écrivez-vous, d'un Prométhée enchaîné à son bureau 18 heures par jour, ne s'accordant des pauses que pour se shooter au café. C'est pas le Balzac qui vous a fait écrire ce livre?
Non, pas du tout. Moi, ce que j'ai adoré, c'est, en fait, quand j'ai lu sa correspondance, ce qui en est ressorti, c'est d'abord qu'il mentait à tout le monde. Et ça, c'est quand même fascinant de surprendre quelqu'un comme Balzac, surtout, en train de mentir. Et je lisais les lettres, je me disais, mais enfin, il sait que c'est faux, il ne peut pas dire ça. Mais si, il le dit. Et l'autre truc dans sa correspondance, c'est qu'il passe son temps à se plaindre. Et ça me le rend très sympathique. C'est-à-dire qu'il est tout le temps fatigué. Oh, je suis fatigué, la vie est trop dure, j'en ai marre, j'ai besoin de me reposer. Il râle tout le temps, il est pas bien. Et ça c'est mon Balzac. Ça, c'est mon frangin.
Oui, là, il est plus sympathique.
En fait, ce que vous dites, oui, il existe un autre Balzac, intime, humain, fatigué. Mais pour vous, le mauvais sort s'est abattu sur lui dès sa naissance.
Alors, c'est là, on se dit, il n'y a pas que lui qui fait des mauvais choix. C'est effectivement, ses parents, premier enfant, première grossesse de sa mère, elle accouche d'un garçon le 20 mai 1798. Et comme sa mère lit Rousseau et le retour à la nature, tout ça, alors que normalement, on met les bébés en nourrice, elle décide d'allaiter elle-même son bébé. Au bout de 3 semaines, il meurt. Elle est convaincue, elle, jeune mère, qu'elle a empoisonné son fils. Quelques semaines plus tard, elle retombe enceinte. Et ça va être Balzac, elle va accoucher à la même date, 20 mai 1799,
un an jour pour jour après
pour
la
jour.
Mort du...
Voilà, et là direct, elle le met en nourrice, il raconte qu'il ne va pas voir sa mère pendant les 4-5 premières années de sa vie, enfin bon, et qu'il aura des rapports compliqués avec elle, ce qu'on peut effectivement comprendre du point de vue de la mère. Quoi. Donc ça commence mal.
Oui, il y a un problème psychologique dès l'origine, en fait.
Dès l'origine, sur sa naissance, il y a un problème sur sa naissance.
Et il écrira « Ma vie est un échec à cause de cette horrible femme ».
Oui, alors c'est là où il ment.
Et c'est là où il ment. Elle n'était pas si horrible que ça.
Elle
il rejette la
horrible.
Faute.
Et non, mais ce qui est fascinant, c'est que tous les biographes de Balzac ont complètement suivi Balzac sur le topos de la méchante mère, etc. Enfin, on connaît
mais
le
en
truc.
Même temps, c'est Balzac. Alors on se dit, on prend ce qu'il dit pour argent comptant.
Oui, voilà. Mais alors pas du tout. C'est un moment où il doit justifier que tout dans sa vie s'est cassé la gueule. Et donc, il faut qu'il trouve quelqu'un qui soit responsable et qui n'est pas lui. Et bien, évidemment, c'est sa mère. Mmh. Solution de facilité.
Vous écrivez la grande force de Balzac et son immense faiblesse, c'est qu'il n'abandonne jamais. C'est par une forme d'arrogance, c'est une confiance démesurée en lui-même qui est contradictoire avec le fait qu'il est toujours fatigué et qu'il pense qu'il n'a pas de chance. Comment vous expliquez le fait qu'il est têtu, peut-être, simplement?
Il le dit, hein, qu'il est très, très obstiné. Et en même temps, je pense qu'il y a quelque chose qui transparaît dans ses romans. Tous les personnages balzaciens ont une espèce d'énergie, mais de quasiment névrotique, qui les pousse à vivre. Et Balzac, il a un côté un peu, effectivement, comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de névrose, de recherche permanente qui le maintient en vie. Et d'ailleurs, c'est au moment où il va toucher au but qu'effectivement, il va mourir, quoi. Donc, il y a quand même un... Voilà, c'était la recherche qu'il tenait.
Et c'est quoi le but pour vous? Le but qu'il recherchait avant tout?
Alors, on ne va pas se mentir, il y avait là quand même l'argent.
L'argent.
Et l'amour.
Et pas la notoriété.
Et ça, il l'a eu. Et ça, il l'a vu très vite. Oui. Il est devenu très, très connu. Alors, tout le monde se moquait de lui. C'était un peu Kim Kardashian, quoi.
Oui.
C'était vraiment un sujet de moquerie permanente pour les critiques parisiens.
Mais est-ce qu'on sait ce qu'il aurait préféré? Parce que vous dites que Balzac avait 3 buts dans sa vie. Vous dites être connu, être aimé, être riche. Rétrospectivement, qu'est-ce qu'il aurait préféré? Il aurait préféré être riche de son vivant, pas avoir toutes ses ennuis de dette et finalement ne pas passer à la postérité, ou être étudié aujourd'hui dans toutes les classes et être considéré comme un des plus grands écrivains de tous les temps.
Non, je crois que la postérité, en fait, c'était pas...
Ils s'en foutaient.
Je crois qu'au final, c'est un peu ce qu'il dit, hein, à la fin de sa vie, il fait un bilan très très négatif et c'est assez touchant de le voir réfléchir là-dessus. Et il se dit pas, j'ai écrit des chefs-d'œuvre, il se dit, bon bah voilà, oui, d'accord, j'ai écrit des livres, ils sont peut-être très bien, mais ça m'a coûté tellement de malheur dans ma vie que le jeu n'en valait pas la chandelle. Et là, c'est terrible parce qu'on est vraiment très loin de nous, notre imaginaire de l'art pour l'art et de l'art, c'est au-dessus de tout. Bah, lui, il dit non. Il dit à un moment, le bonheur et l'amour, c'est au-dessus.
Au fond, ils ressemblent à ces personnages. Ils ont tous des problèmes avec l'argent, quand même.
Oui, mais c'est là où il a quelque chose de révolutionnaire. C'est qu'à un moment, et ça pose la question qu'on, voilà, tous dans notre vie privée, il se dit, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont très, très riches et pourquoi pas moi, surtout?
Mais attendez, il est pas très riche ou il est pas riche du tout? Il est dépensé ou il gagne pas assez?
À un moment, il commence à gagner de l'argent, mais c'est jamais assez. Donc il veut plus.
Non, mais il a un train de vie fastueux.
Mais il décide de vivre comme s'il était millionnaire.
Mais bien sûr, il vit comme s'il était incroyablement riche.
En même temps, il écrit quand même énormément. Donc s'il avait voulu absolument gagner de l'argent, il aurait peut-être pas écrit. C'est quand même une passion. C'est quand même en lui. C'est quand même.
J'aimerais bien dire oui, mais il faut constater qu'il y a un moment où il va avoir de l'argent par son épouse. Et ben c'est le moment où il arrête d'écrire.
Ah ouais.
Et ça, c'est quand même assez terrible. Et à ce moment-là, vraiment, il écrit quasiment plus rien. Et il passe ses journées à faire du shopping pour décorer sa maison, quoi. Ce que je comprends, hein, c'est une super activité. Mais il ne faut pas y voir un côté complètement superficiel. C'est que je crois qu'il y a quand même une idée de l'art, pour le coup, qui est de... Plutôt qu'inventer un monde que je décris, des appartements magnifiques que je décris dans mes romans... Je veux vivre dans le réel de l'art.
Donc, conclusion, Titiou, il faut quand même le dire, il n'aurait pas écrit la comédie humaine s'il avait été riche.
En tout cas, il n'aurait pas écrit la même chose. Mmh. La comédie humaine, ça parle des problèmes d'argent fondamentalement et de jusqu'où on est capable d'aller pour obtenir de l'argent.
Oui, mais s'il n'avait pas eu lui-même ses soucis, peut-être ça ne lui aurait pas inspiré.
Et c'est pour ça que les autres n'ont pas écrit ça.
Fascinant, Stéphane.
C'est fascinant.
C'est pour ça que vous avez écrit tous ces numéros de Secrets d'Histoire, volume 1, volume 2, volume 3. C'est pour décorer Tyrone Gardet, ensuite, finalement.
En tout cas, merci, Titiou Lecoq. Vous nous avez transformé l'image qu'on a d'Honoré de Balzac. Et c'est très bien. Je rappelle le titre de votre livre, Honoré et moi, qui est réédité au livre de poche. Donc, il faut se procurer de toute urgence.
C'est pas cher, comme dirait Balzac.
Vraiment pas cher, 7,40€. Qui dit mieux?
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les poissards de l'histoire. Après Guillaume le Gentil et Honoré de Balzac, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un malchanceux plus récent. Et surtout, moins malchanceux, car vous êtes en mesure de nous rassurer, dans la vie, Pierre Richard est loin d'être aussi maladroit que ses personnages.
Effectivement, Stéphane, je vous rassure, Pierre Richard est beaucoup moins maladroit que vous. Chez lui, c'est une posture. Il y a dans la vie les maladroits volontaires, comme Pierre Richard, et les maladroits involontaires, comme vous. Nos éditeurs ont pu le constater une fois de plus à l'issue de mon portrait de la tenniswoman Venus Williams, où vous avez déclaré, sans que votre cerveau ait le temps de censurer votre bouche.
Merci Mathieu pour ce récit qui était passionnant et très coloré, parce que vous avez quand même réussi.
Là, on est clairement dans la maladresse involontaire, dans l'amateurisme. Rien à voir avec le professionnalisme d'un Pierre Richard qui, lui, se contente de jouer la Scoumoune. Et d'ailleurs qu'au cinéma, que la Scoumoune peut être drôle, dans la vie, elle ne l'est pas du tout. Moi, par exemple, je fais partie de ces gens qui ont vraiment la poisse. Il y a des jours où tout s'enchaîne. Ce matin, par exemple, vous vous demandiez peut-être pourquoi j'étais arrivé en retard à la rédaction. Eh bien, à 8h12, Amazon sonne à ma porte, alors que je suis dans encore en slip, je veux récupérer le colis, sauf que le type s'est trompé de paillasson. Il l'a posé sur celui de mon voisin. Je m'avance donc trop loin dans le couloir, trop loin en tout cas par rapport au fait que je n'ai pas les clés sur moi. Évidemment, il y a un courant d'air, la porte se claque, je me retrouve en slibard sur le palier avec mon colis. Et le pire étant toujours prévu au scénario quand vous êtes comme moi, un vrai poissard, la porte d'à côté s'ouvre et mon voisin, un type hyper chelou, surgit en peignoir de bain, l'entrouvre avec un air lubrique et me dit...
Le bras de Vénus, vous connaissez?
C'est la grosse différence entre Pierre Richard et moi. L'un a réussi à capitaliser sur sa maladresse, l'autre cherche encore un moyen de la monétiser. Notre histoire commence en 1934 à Valenciennes, Stéphane.
Oh là 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 là.
J'ai dit oh là 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 là, sous-entendu ça va être chiant. Non, Valenciennes est une ville qui a beaucoup de charme.
Ah oui, j'aime beaucoup.
Oui, et les années 30 sont éminemment rieuses, si on fait abstraction du nazisme. Pierre Richard de Face vient au monde dans une famille très bourgeoise d'industriels du Nord. Alors oui, donc déjà, première info, à la base, Pierre Richard, c'est son prénom, hein, pas son nom. Oui. Alors, Valenciennes, usine de sidérurgie, enfance sans père qui s'est barrée avant sa naissance juste après avoir dilapidé la fortune familiale, élevée seule par sa mère, voilà un pitch susceptible de coller une demi-molle aux frères d'Ardenne. Sauf qu'ici, non, l'action ne se déroule pas dans une petite maison de mineur, mais dans un château au milieu d'un grand parc. Pierre Richard est un rejeton de la haute aristocratie minière et il se sent complètement en décalage avec ce milieu social. Contrairement au petit Stéphane Bern qui ne comprenait pas que ses camarades puissent venir à pied à l'école ou qu'ils puissent avoir à se préparer eux-mêmes leur déjeuner.
C'est pas quelqu'un qui gère ça.
Pierre Richard, lui, vit très mal le fait d'avoir des domestiques. Et il y en a un qui est là pour lui demander si monsieur reprendra des frites. Un autre qui l'emmène à l'école en limousine. Pierre est très mal à l'aise avec ça. Bon, pas au point d'aller à l'école à pied, hein, faut quand même pas déconner. Mais conscient d'être privilégié, il demande toujours au chauffeur de le déposer posé à 500 mètres du collège. Dans cette cage dorée, Pierre Richard rêve de rébellion. Il se souvient, un jour où des invités devaient arriver, avec un bâton, j'avais écrit « Merde !» en énorme sur le terre-plein en gravier rouge devant l'entrée du château. Je ne vous dis pas le scandale dans la famille. Pourquoi ai-je fait ça? J'étais sans doute anard sans le savoir. Un acte destiné à choquer qui n'est pas sans rappeler la fois où David, furieux qu'on ne l'ait pas augmenté, avait disposé ses cacahuètes d'emballage sous les fenêtres du bureau d'Arnaud Lagardère pour dessiner le mot.
Pouille !
Un petit Pierre Richard, lui, a beau dire merde à la sidérurgie, il reste tout de même au château où il vit entouré de sa maman et de ses deux grands-pères. Il trouve d'ailleurs en son grand-père maternel, Argimiro Polazzini, la figure masculine qui lui manque tant. Il lui voue une très grande admiration et l'affection est réciproque. Il admire son parcours d'immigré italien. Il est marqué par sa prestance, le même physique de colosse, les mêmes colères homériques que Rému, son acteur préféré, explique-t-il. Et c'est un peu grâce à lui si Pierre Richard deviendra Pierre Richard. En effet, il raconte que juste avant de mourir, son grand-père a dit à sa fille, donc à la mère de Pierre Richard, « De tous mes petits-fils, Pierre sera le seul qui y arrivera. » Comme il n'a pas précisé à quoi, ni dans quel domaine, ça laissait une belle marge de manœuvre à Pierrot et ça lui a donné une sacrée confiance, une patience aussi. « J'ai galéré pendant plusieurs années, mais sans stress, sans angoisse, parce que j'étais porté par cette phrase. » Après la guerre, alors que la France est libérée, Pierre Richard, lui, va être enfermé. Tout à l'heure, vous sembliez, Stéphane, insinuer que vivre à Valenciennes était terrible. Vous allez découvrir qu'il y a pire que vivre à Valenciennes, être placé en pension à Valenciennes.
Quelle horreur!
C'est son autre papy, celui qui était moins sympa, qui l'y envoie. Un polytechnicien rigide, directeur d'une aciérie du Nord. J'étais à ses yeux un petit couillon qui ne foutait pas grand-chose. 7 années de pension religieuse, de dortoir glacé, de nourriture infecte. Face à cette réalité, je foutais le camp dans ma tête. Le rêve éveillé était la seule façon de m'en sortir. La pension accentue aussi son côté rebelle, il enchaîne les fugues et se réfugie au cinéma lors de ses escapades. À 16 ans, je vais voir Un fou s'en va en guerre avec Danny Kaye et ça a été une révélation. Danny savait danser, chanter, jouer, faire rire, le tout avec une rapidité époustouflante, c'était ce que je voulais faire. Aussitôt le bac en poche, Pierre Richard débarque à Paris pour retrouver sa mère et s'inscrire, avec sa bénédiction, au cours de théâtre Charles Dullin. C'est un des rares privilèges d'avoir des parents divorcés, dit-il. D'un côté, on m'a dit non, de l'autre, oui, bien sûr, vas-y, rien que pour emmerder l'autre moitié. Très vite, il décide de ne pas mentionner son nom de Face pour ne garder que son prénom, Pierre Richard, afin de ne pas gêner sa famille, où le métier d'acteur reste une forme de déchéance sociale. Pour ne pas trop inquiéter ses proches, il devient d'ailleurs, en parallèle de sa carrière d'acteur, kinésithérapeute, ce qui au début lui rapporte plus que ses cachets d'artiste. Il enchaîne les figurations au théâtre et se produit en parallèle dans les cabarets, aux côtés de Louis Labrocante, enfin Victor Lanoux, avec qui il écrit ses premiers sketchs. Pendant 5 ans, les deux écument les cabarets de la rive gauche et assurent même la première partie de Georges Brassens. Le déclic, le vrai, c'est sa rencontre avec Yves Robert, le réalisateur. Celui qui a réalisé la guerre des boutons le remarque et décèle son potentiel comique. Il lui écrit un premier rôle sur mesure dans sa future comédie Alexandre le Bienheureux. Un jour, il lui tient ses propos décisifs. Tu n'es pas un comédien, tu n'es pas un acteur, tu es un personnage. Tu n'as pas ta place dans le cinéma français, alors crée-la toi-même. Fais ton cinéma. La phrase trotte dans la tête du jeune acteur qui n'aura alors de cesse de chercher un sujet de film. Un de ses amis lui conseille de lire Les caractères de La Bruyère. Il y découvre le portrait de Ménalque le Distrait. Tiens, ouais, c'est cool, et si je faisais ça ? S'exclame-t-il comme dans une chronique de Castiel Lopez. L'écriture du scénario commence et un an plus tard, il retrouve Yves Robert. Tu te souviens de ce que tu m'avais dit ? Eh ben voilà un film. Nous sommes en 70, Le Distrait. Aîné. C'est le premier film réalisé par Pierre Richard et l'accueil est chaleureux. Le public adore ce personnage. Silhouette élancée, presque élastique, ses jambes souples comme de la gelée, ses cheveux blonds bouclés, sa maladresse presque poétique. Pierre Richard enchaîne, toujours derrière la caméra, avec Les Malheurs d'Alfred, une nouvelle comédie qui rencontre aussi un succès. Et puis, Je sais rien, mais je dirai tout, comédie clairement inspirée des performances de Stéphane Bern dans le quiz Bern to be Alive. Et puis, ce sont les fructueuses retrouvées avec Yves Robert, avec qui il tourne évidemment Le Grand Blond avec une chaussure noire et sa suite, Le Retour du Grand Blond. Francis Weber à l'écriture, Vladimir Cosma à la musique, Pierre Richard à l'écran, c'est le cocktail gagnant des années 70-80. Suivront Le Jouet, La Chèvre, Les Compères ou encore Les Fugitifs aux côtés de Gérard Depardieu. Pierre Richard réincarne toujours soit François Pignon, soit François Perrin. Dans tous les cas, son personnage devenu culte du malchanceux naïf, candide et totalement à côté de la plaque. Personnage qui a influencé toute une génération de maladroits, notamment David Castello-Lopez, prototype du mec sympa qui se fait toujours avoir, comme lors de notre émission du 1er avril où Pouls nous avait fait croire qu'il avait cuisiné du fougou, le poisson au poison fatal.
Mais c'est vraiment du thon. Mais ceci dit, moi je me dis, le fougou, voilà, ça a le même goût que le thon, puis voilà.
Ah oui.
Mais en fait, non.
Ah oui.
Et non, c'est notre petit Pierre Richard à nous. Là où leur chemin diverge, c'est que alors que le succès de David reste relativement confidentiel, Pierre Richard, lui, devient le comique préféré des Français, une des plus grandes stars du cinéma populaire des années 70. Avec les femmes aussi, c'est une trajectoire différente de celle de David, puisqu'il cartonne. Il fait tomber Mireille Darc dans ses bras, puis Annie Dupéré, Marie-Christine Barrault, Jane Birkin ou encore Miu Miu. Il est aux côtés d'Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, un sexe symbole des années 70. « Si je suis un séducteur, c'est malgré moi », dit-il en souriant. Delon entre dans un salon, il fait « bang ». Moi, je suis obligé de faire une chute pour me faire remarquer, c'est une autre technique. Longtemps, la critique le boude un peu, ça le chiffonne. Plus tard, il raconte « Il a fallu que j'attende 40 ans pour que les Inrock sortent un long papier sur moi. J'étais stupéfait qu'on me reconnaisse pour la première fois mon style de cinéma. 15 jours après, c'était Télérama, puis les cahiers du cinéma. Je me demandais ce qui se passait. » Il se passait, mon cher Pierre, ce qui se passe toujours en France. Le succès populaire impose une sorte de délai de prescription morale avant qu'on puisse crier au génie. En 2006, il va chercher son César d'honneur en smoking, mais en basket blanche. L'année dernière, il triomphe dans Monsieur X, un seul en scène très poétique dans lequel il ne dit pas un mot. Aujourd'hui, de télépoche au cahier du cinéma, tout le monde semble d'accord pour considérer Pierre Richard comme notre Buster Keaton, notre Jerry Lewis à nous. Dire qu'il est dans la vie comme le personnage qu'il s'est construit à l'écran serait évidemment un peu trop facile. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il est lunaire, c'est vrai. Il est distrait, c'est vrai. Il est rêveur avec ses absences, ses bévues. Mais côté maladresse, en revanche, on repassera. Pour jouer correctement les maladroits au cinéma, il faut être très adroit, parce qu'un maladroit ratera sa maladresse, il aura raté son ratage, explique le maître des faux maladroits. Pas maladroit dans la vie, donc pas malchanceux non plus, hein, on peut pas dire ça. Je n'ai jamais pris mon métier pour un travail, j'ai fait 70 films, je me suis amusé 70 fois, à deux ou trois exceptions près. J'ai eu du bol, conclut Pierre Richard, devenu également viticulteur. Alors puisque nous avons la chance d'avoir autour de cette table un rédacteur en chef de la revue du Vin de France, hein, il le dit pas souvent, mais il l'est, Olivier Pouls, je vous pose la question, est-ce qu'en matière de pinard aussi, Pierre Richard a eu du bol, ou bien il y a eu des petites maladresses dans la vinification?
Non, mais il a démarré, si je me souviens bien, en 1986, son projet viticole. C'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. C'est maintenant son fils qui s'en occupe. Il est dans les Corbières. Et il faut bien reconnaître que les vins ont beaucoup progressé.
Ah, mais il partait de loin, c'est ça que vous voulez dire.
Il faut apprendre, hein, c'est pas un métier qu'on découvre comme ça en deux vinifications ou en deux millésimes. Mais là, aujourd'hui, ça commence à devenir sérieux. Je crois que les projets avancent beaucoup. Et on pourrait dire que par rapport à son ami ou à son compère de
des
film,
compères, justement.
Exactement, Gérard Depardieu, il a quand même pris une petite avance, parce que on peut dire que le vin de Pierre Richard est meilleur que celui de son ami Gérard Depardieu.
Ah bah tiens, le vin de Depardieu est dégueulasse.
Bon, disons que
il est moins bon, il a pas dit dégueulasse.
Il est moins bon. Enfin, je ne permettrai pas de dire dégueulasse si Gérard débarquait un jour dans ce studio. Je voudrais pas avoir à m'expliquer.
On n'a pas les moyens. Merci.
Mais bon, il fait pas le plus grand vin de Touraine, il faut le reconnaître.
Merci Olivier pour votre expertise, votre franchise. Mais je crois que Gérard Depardieu a un souvenir assez différent de la fois où vous aviez goûté son vin ensemble.
Je te signale quand même que tu bandais. Tu pouvais pas m'avancer, mais il m'a bien semblé sentir une grosseur. C'était chaud. Chaud comme un Jésus qui sort du four.
C'était pas si mauvais ce pinard.
Non, finalement, vu qu'il était bon, maintenant je me souviens
très
bien.
Bon, hein. C'est qui aimait finalement.
Merci Mathieu, c'était 99% vrai.
Europe 1, historiquement vôtre.
Décidément, la malchance s'acharne sur eux, puisqu'à partir de maintenant, nous n'allons plus parler de nos poissards de l'histoire.
Et non, Stéphane, dans cette dernière demi-heure, nous allons remonter aux origines de ce qui fait aujourd'hui notre quotidien. Et notre quotidien, de la cantine au maintenant aux grandes tables, on revisite le cordon bleu.
Et puis surtout, on va découvrir pourquoi on appelle le cordon bleu. Et puis je vous donnerai la recette pour le faire chez vous dès ce soir,
bien sûr,
c'est très facile.
On peut. Le mot de la fin, Stéphane, puisqu'on va apprendre d'où vient l'expression cordon bleu. Mais vous, quelle expression allez-vous décortiquer pour nous?
Vous voyez, dans cette émission, on accepte tout le monde. On n'est pas, les gens ne sont pas triés sur le volet.
Sur le volet.
D'où ça vient, cette expression?
Bonne question. Mais tout de suite, lui, on sait d'où il vient, du Portugal. David Castello-Lopez remonte aux origines d'une invention fort utile chaque jour. Aujourd'hui, une invention vitale, le gilet pare-balles.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaque jour, il remonte aux origines des inventions qui font notre quotidien. Certaines inventions nous ont fait du mal, l'amiante. D'autres nous font du bien, comme le gilet pare-balles, David. Oui.
pendant longtemps, le gilet pare-balles, j'ai trouvé ça mystérieux. C'est-à-dire, je vois pas comment un vêtement, même très solide, peut arrêter un projectile en métal qui va à 1500 km/h. Même si j'adore quand même dans les films, vous savez, quand il y a un personnage qui se fait tirer dessus et on croit qu'il est mort, c'est et génial. Puis il se relève parce qu'en fait il avait un gilet pare-balles. Mmh. Et il y a toujours un plan sur la balle fichée à l'intérieur de son gilet avec un peu de fumée autour pour signifier que oh là là, c'est chaud quand même, t'as vu. Mais alors, d'où ça vient, ces gilets pare-balles? Comment, et surtout, comment c'est possible qu'ils arrêtent les balles? Alors, pendant des siècles, il y a pas mal de gens dans le monde qui ont essayé de fabriquer des armures qui puissent arrêter les balles. Et au début, c'était des armures qui ressemblaient beaucoup à des armures de chevaliers. Il y a par exemple un bandit australien très connu qui s'appelait Red Kelly et qui, avec son gang dans les années 1880, a fabriqué une armure en métal qu'il a utilisée avec un certain succès lors de ses rencontres avec la police. Le problème de ces armures, c'était qu'elles pesaient extrêmement lourd, 25 kilos, ce qui rendait les mouvements difficiles. Hey. Or, pouvoir bouger quand on est en train de se faire tirer dessus, c'est aussi important que d'être protégé physiquement des balles qui vous sont adressées. Et le truc, c'est que Red Kelly et ses amis, ils ont fait une erreur en pensant que le métal, c'était, en ce qui concerne le fait d'arrêter les balles sur son corps, la meilleure protection contre les balles. Pourquoi ? Eh bien, pour le comprendre, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu ce qui fait la puissance d'une balle de revolver. Ce qui fait qu'une balle de revolver peut traverser les murs, et a fortiori la peau des gens, c'est qu'elle concentre énormément d'énergie sur un point tout petit qui est sa pointe. Mais la plupart des balles, elles ont une autre caractéristique, c'est que lorsqu'elles atteignent une surface, elles se déforment. Et lorsqu'elles se déforment, elles pénètrent moins facilement dans les choses parce qu'elles sont plus larges. Et oui, si j'essaie de faire rentrer la pointe de ce stylo que je tiens dans ma main, je vais y arriver très bien. Voilà, je vais pas le faire, mais je peux y arriver très bien. En revanche, ce verre que j'ai amené qui est beaucoup plus large, je vais avoir du mal parce que la force que j'applique est diffusée sur une plus grande surface. C'est la même raison qui fait qu'on s'enfonce moins dans la neige avec des raquettes qu'avec des Stan Smith. Voyez,
qui en même temps a tenté une randonnée pédestre en montagne avec des Stan Smith?
Moi, je le fais en chaussures de ville pour avoir ma paire.
Non, Stéphane, c'est plutôt des Louboutins. Oui,
c'est des randonnées en neige non plus avec.
Je fais tout en Louboutin.
Et donc, si on arrive à ce que la balle se déforme avant de toucher la peau d'une personne, eh bien, l'énergie de la balle va pouvoir être plus facilement dissipée.
C'est ce que fait le gilet.
Et les premiers qui se sont rendus compte de ça, ce sont les Coréens, au milieu du 19e siècle. Ils ont montré que quand on superposait 10 couches de coton les unes sur les autres, eh bien, on pouvait arrêter les balles de certaines armes à feu de l'époque, parce que ces balles se déformaient avant de toucher la peau. Et quelques années plus tard, de façon indépendante, il y a un chirurgien américain du Far West, qui s'appelait George Goodfellow, qui a vu devant ses yeux un règlement de compte au revolver entre deux joueurs. Il y en a un des deux qui s'est pris une balle dans le cœur. Et quand George s'est approché pour regarder la plaie, il a remarqué que le mouchoir en soie que la victime portait sur la poitrine n'avait pas été perforé par la balle. La balle avait juste poussé le mouchoir à l'intérieur du corps de la victime. Et c'est cette observation qui a amené petit à petit le développement des gilets pare-balles occidentaux, qui étaient tous en soie. Les gangsters de l'époque d'Al Capone, par exemple, ils portaient souvent des gilets pare-balles en soie. Les chefs d'État du monde entier, ils en possédaient, y compris l'archiduc François Ferdinand, le monsieur dont l'assassinat a lancé la Première Guerre mondiale, et qui malheureusement ne le portait pas le jour où on lui a tiré dessus, même si fondamentalement ça aurait servi à rien puisqu'on lui a tiré dans le cou. Mais voilà, en tout cas, il n'avait pas
son tiré. Il faudrait un foulard en soie.
Et puis dans les années 60, on a inventé le Kevlar.
C'est mieux que la soie.
Qui est une fibre synthétique plus résistante que la soie, mais dont le pouvoir d'arrêter les balles fonctionne exactement sur le même principe. Alors le problème, c'est toujours le même à la guerre, c'est qu'il y a une bagarre entre la puissance de feu et la puissance de défense, et que quand la puissance de défense augmente, ça incite à créer des armes qui puissent la surpasser. Et aujourd'hui, donc les gilets pare-balles de l'armée américaine, par exemple, ils ont à la fois du Kevlar, mais aussi des plaques de métal ou de céramique qu'on met à l'intérieur, aux endroits un petit peu stratégiques, pour renforcer encore. Et ces gilets, ils sauvent plein de vies. Depuis 1973, rien que sur la police américaine, on estime qu'il y a 3000 policiers américains qui ont été sauvés par leurs gilets pare-balles. Donc franchement, merci le tissu.
Mais bravo. Ce que je ne comprends pas techniquement, c'est qu'à une époque, on ne mettait que de la soie. Moi, je pensais qu'il y avait une couche pour ralentir et pour déformer la balle, et en dessous, de l'acier. Enfin, aujourd'hui,
aujourd'hui, il y a de l'acier et du Kevlar, mais ceux du début du XXe siècle, c'est juste des couches de soie superposées. J'ai vu sur les premiers du début du XXe siècle, c'est 18 couches de soie.
Et ça marchait.
Ça marche jusqu'à un certain point. Ça marche avec des balles de revolver qui vont pas trop vite et qui sont pas trop dures.
Les balles de l'époque. Ouais. Effectivement.
Mais écoutez, voilà. Avant d'avoir emporté, merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio. Et sur le site, évidemment, europe1.fr.
Vous êtes un militaire, vous avez passé une rude journée, on vous a tiré dessus grâce au gilet pare-balles, vous êtes intact, vous rentrez chez vous, vous avez envie d'un cordon bleu. C'est la logique. Olivier Pouls est là pour nous raconter l'histoire du cordon bleu aujourd'hui.
Ah oui.
Ouais, tout le monde est, tout le monde aime ça, je pense. Alors, c'est vrai qu'on en a beaucoup mangé à la cantine. On a
mais ils n'étaient pas forcément très bons.
Non, on en a probablement acheté aussi du père du machin truc.
Du père d'Odume, on peut le dire, oui. Ah ouais. On n'a pas le droit de citer de marque.
Bon, ah, oui, vous allez recevoir
le Gaulois. Il faut citer plusieurs marques.
Bref, le cordon bleu, c'est un de ces plats incontournables de notre belle gastronomie et qui a un nom d'ailleurs qui évoque quelqu'un qui cuisine bien. Mais d'où vient cette appellation cordon bleu? Eh bien, ça remonte à Henri III. Henri III qui a créé l'ordre des chevaliers du Saint-Esprit.
Et vous le saviez, Stéphane?
Oui.
Mais vous savez tellement de choses en dehors du quiz. C'est fou.
Oui, non, mais c'est pas ce qu'on appelle le cordon bleu. Aujourd'hui, on dit le ruban rouge.
Oui, parce
que. Le ruban rouge, c'est la Légion d'honneur. À l'époque, c'était le cordon bleu.
Et oui, parce qu'ils portaient un cordon bleu qui tenait leur croix. Mais surtout, ces chevaliers du Saint-Esprit étaient de sacrés gourmands. Et ils avaient l'habitude de se réunir dans des clubs gourmands dans lesquels on mangeait extrêmement bien. Et on disait à l'époque, manger comme un cordon bleu. C'est pas celui qui préparait, c'était celui qui mangeait très bien.
Je suis un cordon bleu.
Vous êtes un cordon bleu.
Je suis un grand cordon bleu.
Un gourmet.
Voilà. Alors, l'autre explication possible sur le nom de ce plat, c'est que, à l'origine, bon, il s'agit d'un plat qui est d'origine italienne, puisque c'est en quelque sorte une escalope milanaise quelque peu améliorée, à laquelle on a rajouté du fromage, mais c'est, l'idée de la panure est là. Et justement, pour faire tenir le fromage, le jambon, l'escalope, on l'entourait d'un petit cordon qui était bleu, et ça pourrait aussi être l'explication du nom de l'appellation cordon bleu.
Ah.
Alors en tout cas, c'est un plat qui s'est beaucoup imposé aux États-Unis. Les premières mentions de cordon bleu, d'ailleurs en français, apparaissent à la fin des années 50 aux États-Unis. Alors là, c'est à l'époque dans les restaurants, avant que l'industrie ne s'en empare. Mais pour les faire vous-même, c'est assez simple. Pour 4 personnes, il vous faut 4 escalopes. Vous pouvez choisir volaille, dinde, veau, pourquoi pas, même des escalopes de porc. Vous allez bien ouvrir, donc les aplatir, même au rouleau à pâtisserie, vous pouvez bien aplatir vos escalopes. Dessus, on pose une tranche de jambon, une tranche de fromage, moi je prends du comté en l'occurrence, on replie le tout, on ferme bien, pas besoin de mettre forcément un cordon bleu, on le ferme bien avec les doigts, et ensuite on va le passer dans ce qu'on appelle une panure à l'anglaise, je vous en ai déjà parlé, donc vous devez vous en souvenir.
Bien sûr, mais vous allez nous le rappeler quand même.
Farine, œuf, chapelure, dans cet ordre-là, vous imbibez donc vos farines, vous tapotez, vous imbibez bien d'œuf et vous roulez dans la chapelure. Puis vos cordons
comme
bleus
la milanaise.
Sont prêts. Comme une milanaise. Mais c'est un cousin de la milanaise.
Hein. Un expert.
Et puis, il reste plus qu'à cuire ça tranquillement dans une poêle bien chaude avec un petit peu de matière grasse. Et vous avez vos cordons bleus à la maison.
Mais ils risquent pas de s'ouvrir?
Ah oui.
Alors, si vous l'avez bien fermé et bien pané, la panure va compléter le joint et va le rendre hermétique. Alors, ce qui est magnifique dans le cordon bleu, c'est quand vous savez, la panure qui devient croustillante, et puis le fromage au milieu.
Qui s'écoule un tout petit peu.
Qui s'écoule un petit peu, juste au moment où vous le coupez en deux.
Et
donc, c'est pour ça qu'il faut le cuire pas trop chaud pour laisser le temps, la température de monter bien à l'intérieur, sans brûler l'extérieur, arriver à rendre le fromage fondant.
Merci beaucoup.
Merci Olivier.
On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr avec les consignes, les proportions, c'est important. Stéphane Bern, lui, va nous raconter l'histoire d'une expression. C'est son plaisir en fin d'émission, c'est le mot de la fin. Aujourd'hui, l'expression « trier sur le volet ».
Oui, sans vouloir trahir un secret des coulisses de l'émission, quand nous recherchions un spécialiste du Chevalier d'Eon ou un pro du Saint-Empire romain germanique, vient la sélection de nos historiens. Et je peux vous dire que la grande rédaction d'Historiquement Vôtre n'est pas du genre à donner le micro au premier venu. Nous trions sur le volet les personnes que nous allons interviewer. Trier sur le volet. Et je me suis dit, mais d'où vient cette expression?
Alors, trier sur le volet, c'est donc mettre en place une sélection, choisir avec soin. Et la question qu'on se pose, c'est d'où vient ce fameux volet?
Alors, comme l'a dit tout à l'heure Olivier Pouls, évidemment, ce volet n'a rien à voir avec le volet de votre fenêtre. Au Moyen-Âge, quand on parlait de volet ou même de voilet avec un T, eh bien, on évoquait un petit voile. Un tissu extrêmement fin et léger. D'ailleurs, on disait qu'avec un peu de vent, il pouvait voleter. Cette étoffe pouvait même servir à fabriquer des tamis. Au XVe siècle, le volet n'est plus un tissu, mais une assiette de bois, qui a exactement la même utilisation, mais plutôt pour les fèves et les pois. En 1532, Rabelais a le génie dans son Pantagruel de transposer l'expression des pois chiches aux personnes. Il parle d'élus, choisis et triés comme beaux pois sur le volet. Mmh. Aujourd'hui, en Angleterre, donc vous avez compris, c'est un instinct tamis en fait. On dit « to separate the wheat from the chaff », séparer les grains de la paille. En Espagne, « separar el grano de la paella », c'est pareil à le grain...
De la paella, bien sûr.
De la paella, la paella, le grain de la paille. Au Brésil, on préfère l'expression « escolière a dedo », comprenez « trier au doigt », alors qu'en Roumanie, on dit « trier d'après le sourcil ». Avant d'arriver à ce micro, je cherchais encore une explication à cette métaphore. Bon, j'ai fait chou blanc, j'ai toujours pas trouvé, je ne sais pas ce que le doigt d'un côté ou le sourcil vient faire de l'autre. Mais séparer le bon grain de l'ivraie nous explique que nous trions sur le volet.
Nous voilà éclairés, une fois de plus grâce à vous Stéphane. C'est une très belle émission qui se termine. Nous avions beaucoup de chance aujourd'hui de présenter Historiquement Vôtre. Nos personnages ont été un peu moins chanceux. Qui de nos poissards de l'histoire, Guillaume le Gentil, Balzac et Pierre Richard, vous êtes le plus ému, Stéphane?
Alors écoutez, bon, je connais assez bien Pierre Richard et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Ah, mais vous le connaissez humainement?
Oui, vraiment, oui. J'ai beaucoup aimé Honoré de Balzac, vu
revue et corrigée par
Titou Lecoq. Mais cela dit, Guillaume le Gentil m'a beaucoup intéressé.
Mais surtout
aussi.
Lui, on va dire la vérité, on ne le connaissait pas.
Non, j'avais jamais entendu son nom.
Cet astronome, vous pouvez le réécouter en podcast, qui a donc a tout raté. Il cherchait à observer Vénus, qui devait passer deux fois dans l'espace de sa vie. Il a raté les deux rendez-vous. Et quand il est rentré à Paris, eh ben, on pensait qu'il était mort. Il avait perdu sa place à l'Académie. Donc c'est effectivement le poissard, le champion du monde des poissards. Qu'est-ce qui nous attend demain?
Demain, à l'heure où les crèches sont fermées, on réunit des nounous d'enfer. Marie-Madeleine Mercier, qui fut choisie pour être à la cour, la nourrice d'un certain petit garçon, Louis XV. Puis une nounou qui avait une autre activité, photographe, son nom Vivienne Maier, devenue à sa mort l'une des plus cotées dans le monde entier.
Et moi, je vous parlerai d'une nounou d'enfer, mais hélas, au sens propre, l'américaine Yoslyn Ortega. Elle est vivante, mais elle est en prison pour avoir tué deux enfants dont elle avait la garde. Il va falloir avoir le goûter bien accroché, Stéphane. Alors à demain.
À demain, Mathieu. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.